Sans contrôle, le podcast 100% excellent.
Loco Pelleros, Pelleros Loco, c'est fabuleux.
Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
Autour de la table... David Filippo, West France. Jean-Marcel Boudard, West France. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Nicolas Mangeard, West France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, It West.
Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard, David Filippo et Nicolas Mangeard.
Salut tout le monde.
Beaucoup d'actu et de choses à dire sur le FCN aujourd'hui. Mais une fois n'est pas coutume, on va commencer, messieurs, ce podcast par un hommage à Titi, le président d'Active Nantes, ce groupe de supporters aux 1500 membres. Notre Thierry Tissot, exemplaire face à la maladie, porté jusqu'au bout par sa passion pour les jaunes et verts. Salut à toi, Titi, le canari qui nous écoute tout là-haut. Il jouait du piano debout, c'était la chanson de Titi, invité exceptionnellement en tribune de presse lors du dernier Nantes-Lens, non pas pour parler dans le micro comme il aimait le faire avec Florian sur France Bleu, mais juste pour assister au tifo historique des actifs en Océane. On avait passé le match à ses côtés, tous les deux, Jean-Marcel. Titi avait serré les dents pour surmonter la douleur et kiffer encore une fois l'ambiance. C'était son dernier match à la Beaujoire, il avait pleuré, il m'avait mis les larmes aux yeux. C'est un sacré bonhomme qui nous quitte, hein, Jean-Marcel.
Oui, c'est à la fois une histoire nantaise, de par son parcours à Nantes. C'est un enfant de Nantes et c'est un supporter invétéré du club. C'est surtout une gentillesse infinie, une générosité sans limite. Et tous ceux qui ont eu la chance de croiser aujourd'hui, parce que c'est une chance de l'avoir croisé ou d'avoir partagé des moments avec lui, forcément ont un grand vide en eux.
David.
Ouais, moi je l'ai croisé quand j'étais à 20 minutes finalement, quand j'étais journaliste à 20 minutes, c'était quelqu'un de toujours dispo pour répondre à la presse, un bon client comme on dit, et c'est aussi pour ça que je pense que Florian le faisait venir en tant que consultant à France Bleu. On a eu un petit conflit mais on a réussi à s'expliquer avant et ça j'en suis plutôt content, et d'ailleurs on a pu échanger des mots et c'était un mec très bien, un chic type.
On a une grande pensée pour Titi, pour ses proches évidemment et tous ses amis. Tu seras toujours ici avec moi même si tu es parti, disait l'un des multiples tifos impressionnants de la Brigade Loire à l'occasion des 25 ans samedi. Ça vaut désormais aussi pour toi, Titi. Allez, la tristesse était aussi sur le terrain samedi. Il faut bien qu'on en parle dans ce 30e épisode saison 5 de Sans Contrôle parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis ce match face à Strasbourg. Strasbourg, la défaite de trop pour Gourvennec. Que restera-t-il de son passage? Quel bilan? Quelle est la responsabilité des joueurs également dans le départ du coach breton? Que s'est-il passé sur le terrain face aux Alsaciens? Comboiré, le retour, le Kanak peut-il remettre cette équipe à l'endroit? Vous l'entendrez, ses premiers mots en conférence de presse, c'était ce mardi. Comment faire pour gagner et se maintenir? Quelle marge de manœuvre? Quel changement pour Comboiré? Et puis les conséquences de son retour au club? Enfin, l'Equita continue leur cirque. Comment en est-on arrivé à une saison à trois coachs? La colère également des supporters vis-à-vis de la direction est-elle à son maximum? Peut-elle avoir des conséquences? Messieurs, c'est parti pour un tour de plus dans la lessiveuse, l'actu du FC Nantes, en espérant qu'on ne termine pas aussi essoré qu'un coach sous l'Equita.
Eh hey oh, faites pas la gueule, vous êtes content quand même, non?
Hey, oh, let's go!
Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Strasbourg, la défaite de trop pour Jocelyn Gourvennec, éphémère technicien sur le banc des Canaries.
Jean-Louis
Aubert ? Oui, bien sûr.
On essaie quand même, vous me regardez tous les deux là.
Ouais, c'est une maman, c'est classique.
Il faut se mettre dans le podcast. On est un peu sous l'émotion, hein, ouais. Évidemment. On vient de parler de Titi. Juste une illusion, Jean-Louis Aubert. Le passage de Jocelyn Gourvennec au FCN n'était-il qu'une illusion, comme beaucoup d'autres, sous la gouvernance d'Equita? On va en dire un mot dans un instant, mais d'abord, que s'est-il passé sur le terrain face aux Alsaciens lors de cette défaite 3 buts à 1? Gourvennec avait pourtant écouté les critiques. David, il était passé à 4 derrière. Il avait aligné une formation plutôt offensive dans ses choix de joueurs. Et puis, il a été plombé par ce but d'entrée.
Oui, alors après ce qu'il avait écouté les critiques, on a cru le comprendre d'ailleurs en conférence de presse qu'il a, il nous a balancé une petite pique après le match, donc je pense qu'il aimait pas trop ce débat hein, sur le système.
Les choix offensifs, sur les joueurs, les intentions,
donc là,
etc.
Effectivement, il a mis une défense à 4, il a remis Mollet en meneur de jeu. Alors il se trouve qu'il pouvait pas mettre son milieu de terrain à 3 habituel avec Sissoko, Chirivella et Douglas Augusto, puisque le dernier, le Brésilien, était suspendu. Donc voilà, après, donc, il a changé de système. Ouais, je pense que c'est un peu par la force des choses, sinon il aurait sans doute remis ses trois joueurs.
Non, il avait retenu la leçon. Alors défensivement,
je suis pas sûr.
Les trois milieux, c'est possible. Défensivement, il avait retenu la leçon de Metz où Nantes avait été trop frileux, Nicolas.
Oui, c'était dans la continuité de ce qu'il nous avait dit après le match à Marseille. Il s'y est tenu. Malheureusement, on a vu que cette équipe, elle était dans une spirale quand même très négative et que malgré le premier but encaissé très vite et l'égalisation. Moi, j'y ai jamais vraiment cru, en tout cas, sur ce match. On le sentait quand même venir depuis quelques temps.
Non, à la pause avec David.
À la mi-temps, toi, tu te dis Strasbourg va gagner.
Ouais, moi, je me dis, mais parce que.
T'étais pas au stade, toi.
Non, j'étais pas au stade. J'étais devant, devant ma télé. Mais ouais, parce que je trouve que cette équipe, depuis quelques semaines, elle dégage aucun signe positif, même quand elle a le ballon, même quand elle se crée des occasions, comme c'est le cas sur la première mi-temps. Je la trouve pas rassurante. Je la trouve fébrile et...
T'as eu raison. Pour le coup, au stade, on s'est dit la même chose avec David à la mi-temps. Jean-Marcel, tu vas nous dire comme tu as pensé les choses. Les Canaris se sont complètement relâchés en seconde période, comme s'ils avaient fait le plus dur de revenir à la pause et qu'ils ne comprenaient pas l'urgence de gagner face à cette équipe de Strasbourg dans le contexte nantais avec le calendrier qui arrivait. Fallait absolument gagner. Et puis, extinction des lumières à la mi-temps, quoi.
Bah parce qu'elle n'a rien produit. Je crois qu'il n'y a aucun tir cadré en deuxième mi-temps, mais... Il faut se souvenir, c'est une équipe qui a perdu contre Metz, qui n'avait plus gagné, je crois, depuis 9 matchs même, je crois. Strasbourg n'avait pas gagné une seule fois en 2024 en championnat et est venu l'emporter à Nantes. Et en fait, on se dit qu'à partir du moment où le FC Nantes revient à partout et n'enfonce pas le clou face à une équipe comme ça, les laisser déjà exister, c'est leur redonner confiance. Et puis, on sait que c'est une équipe qui est sur 6 défaites d'affilée à domicile, la plus longue série de l'histoire du club. Et donc forcément, ça met aussi en confiance les adversaires. Et on ne peut pas avoir de temps faible, en tous les cas, relâchement, je trouve.
Alors, oui, et puis au-delà des temps faibles, la mentalité d'une équipe qui s'arrache pour se maintenir. Et même dans les discours d'après-match, les gars, Castelletto, par exemple, quand il vient en zone mixte, il nous dit « on aurait dû se contenter du nul ». Sissoko a dit quelque chose du même ordre également. « Quand on ne peut pas gagner, il faut au moins ne pas perdre », etc. C'est pas possible avec des nuls de se maintenir à domicile contre Strasbourg.
Mais surtout, alors j'ai pas vérifié la stat depuis deux matchs, mais comme ils ont fait que perdre, ça n'a pas dû énormément changer. Les Nantais, s'il n'y avait que la deuxième mi-temps, ils seraient 18e de Ligue 1. C'est une équipe qui n'a jamais marqué un but sous Jocelyn Gourvennec après la 60e minute, qui disparaît complètement de la circulation au retour des vestiaires. C'est aussi pour ça que je disais ça tout à l'heure. Et c'est surtout cet aspect-là d'une équipe qui peut faire des choses en première mi-temps et qui ne fait rien ensuite, qui est préoccupant. Pardon.
Et qui s'est donc effondré en seconde période. Jocelyn Gourvennec, au micro, en zone mixte, après la rencontre, y croyait encore. Une détermination sans faille, nous a-t-il dit.
Démuni, absolument pas. Je vois bien, j'ai suffisamment d'expérience maintenant. Je vois bien que les joueurs sont à l'écoute et dans l'envie d'appliquer ce qu'on décide, que l'on joue dans tel ou tel système. Ma détermination, elle est sans faille. J'ai pas de, à aucun moment, je peux me dire j'ai peut-être moins d'énergie ou je peux peut-être me poser la question de absolument pas. Que ce soit avec les joueurs, que ce soit avec le staff, que ce soit avec la direction, je monte toujours autant d'énergie et j'ai une détermination qui est sans faille.
Sans faille, mais malheureusement sans l'Equita qui ont décidé de le jeter. On use les entraîneurs comme un Kleenex, comme des Kleenex au Football Club de Nantes. Est-ce que c'était inéluctable le départ de Gourvennec après 13 matchs? Tu dis oui, David?
Oui. Oui, il suffit de regarder les chiffres. Voilà, c'est donc 15 matchs sous Gourvennec si on compte la Coupe de France, c'est 10 défaites, 3 victoires seulement, 4 victoires et un nul. à Reims. Donc non, franchement, et puis pas de jeu, aucun jeu. En fait, cette équipe sous Gourvennec, il y a eu ce premier match qui était peut-être un peu en trompe-l'œil, même si dans le jeu, c'était pas non plus extraordinaire ce soir-là, cette victoire contre Nice lors du premier match. Et ensuite, cette équipe n'a jamais progressé. Elle a même totalement régressé.
On a dit qu'il y avait cette première période, Jean-Marcel, où Gourvennec se retrouvait avec une équipe qu'il n'avait pas complètement composée. Il y a eu ce deuxième temps du mercato de janvier où il a quand même participé à quelques ajustements. Puis il y a eu ce mois de février qu'on a dit décisif. Il n'a pas convaincu à chaque fois. Il a gagné deux fois et il a survécu grâce à ça à Toulouse et à Lorient. Mais dans le jeu, moi je suis de la
chose
David,
négative.
Ça ne tenait pas dans le jeu.
Il y avait trop de choses négatives à son crédit en tous les cas sur le terrain. Il y avait les résultats en premier lieu. Il y avait les résultats contre des concurrents directs au maintien, puisque la liste elle est quand même longue entre Clermont, Metz et aujourd'hui Strasbourg. Alors il y avait eu des parenthèses Lorient et Toulouse, mais c'était à l'extérieur. Mais en tous les cas, c'était beaucoup trop faible aujourd'hui. Et surtout, il n'y avait pas d'élan. Et on avait même le sentiment, comme l'a dit David, que cette équipe elle régressait. C'est-à-dire qu'il avait eu en tous les cas des moyens pour réajuster l'effectif. On voyait où il voulait en venir, en tous les cas, où il nous a dit où il voulait en venir, mais sauf que ça se traduisait pas du tout sur le terrain, et même que je la trouvais moins emballante et avec moins de certitude que ce qu'elle a montré début janvier. Et pire, en plus, c'est une équipe qui au final commençait à prendre beaucoup de buts et qui dégageait une forme de fébrilité, oui. Et même pas d'âme du tout sur le terrain. On a jamais senti je sais pas, des combattants, c'est jamais une équipe qui a su emballer, que ça soit un bout de rencontre.
On est tous les quatre à dire en fait que c'était inéluctable, parce qu'on va parler tout à l'heure de la gestion d'Equita, des saisons à trois coachs, que c'est n'importe quoi en termes de projet de club, mais on est tous en train de dire que ce coach-là, il était déjà usé et il n'était pas la solution pour le maintien.
Je ne suis pas sûr qu'il soit usé, enfin on ne peut pas lui reprocher.
Pour le maintien, Jean-Marc.
C'était peut-être pas en tous les cas l'homme de la situation, voilà. Et en tous les cas, l'homme d'un contexte, ça c'est sûr.
La question qu'il faut se poser, c'est fallait-il le prendre pour une telle mission? Je pense qu'il a peut-être pas le profil d'un pompier de service, tout simplement. Jocelyn Gourvennec, c'est un homme de projet, un bâtisseur.
Mais après, il n'arrive pas dans une position de pompier de service. Il arrive dans une équipe qui est milieu.
Tu sais que tu vas jouer le maintien.
Non, mais d'accord, mais dans une équipe
tableau.
Qui est milieu de tableau.
Mois de novembre.
Qui certes, prend des buts, mais c'est
pas
encore
faux,
tôt
mais...
dans la saison. Il peut se passer des choses. Moi, je trouve que la bascule, elle s'opère vraiment sur l'enchaînement Clermont-Laval en Coupe de France, où on voit une équipe nantaise qui, comme depuis Gourvennec était arrivé, notamment en coupe, essaie de proposer du jeu et se fait punir de manière malheureuse à la fois par l'arbitrage et à la fois par une maladresse chronique devant le but. Et à partir de là, il y a une bascule, Gourvennec décide de faire du défensif pour du défensif. Et là, c'est la déliquescence de l'équipe. Et je pense qu'il s'est trompé à ce moment-là et il aurait dû continuer à s'accrocher à ses idées de jeu. Et au lieu de ça, à force de
s'y accrocher.
Non.
Avec son système A5, même contre Metz.
Parce que ce qui a fait du mal, ce sont
les intentions.
On va pas
refaire le débat que vous avez pu avoir par ailleurs, mais moi je trouve
qu'il
y avait des intentions en tous les cas. Et que ce soit dans l'engagement, l'agressivité ou même dans la volonté de jouer, qui était beaucoup plus importante début janvier. Et avec de l'espoir, parce qu'on savait qu'il y avait en plus.
Sur quel match?
Sur le match de Clermont, par exemple.
Clermont-Laval, l'enchaînement.
Laval, moins quand même. Mais Clermont, on l'a dit, tu le rejoues 10 fois, tu le gagnes 8 fois.
Mais Laval, pareil. Laval, on est tous. Parce qu'il y a ce but qui est encaissé. Mais je veux dire, si ce but n'est pas encaissé, les Lavalois n'ont pas d'autre.
Et je trouve que ces intentions-là, on les retrouve pas. En fait, on savait très bien que c'était une équipe que si elle ouvrait pas le score, et encore. Elle n'était pas en capacité, en tous les cas, de renverser les choses et de l'emporter.
Ce qui a fait mal, tu parles de match bascule, c'est aussi la victoire à Toulouse, puis la victoire à Lorient, où en ne jouant pas, en refusant le jeu, tu finis par gagner et tu dis que ça va être là la solution jusqu'à la fin de saison. C'était dramatique pour nous à voir. Franchement, quand on est supporter, suiveur du FC Nantes, on en passait.
Mais ça peut être dramatique, ça peut être aussi un passage obligé, si ça permet aussi à un moment d'arrêter une forme d'hémorragie, de prendre des points et de relancer quelque chose. Mais en fait, il n'a jamais su enclencher quelque chose.
Que je dis que ces victoires, finalement, ont fait du mal, parce qu'elles lui ont fait croire que c'était la
d'ailleurs,
solution.
D'ailleurs,
mais au groupe aussi.
Il était toujours en quête. Ce qui est d'ailleurs étonnant ou surprenant, c'est qu'autant il avait une vision, je trouve, claire lorsqu'il est arrivé, cohérente, y compris en janvier, où on voyait où il voulait aller. Alors, ça ne se traduisait pas. Mais je trouve qu'il a même perdu le fil en février. Dans ses choix ou dans ses hésitations de système aussi par rapport aux critiques qu'il entendait souvent, et je pense qu'il venait pas que des journalistes, ça pouvait venir aussi dans la volonté de son groupe de se rassurer. Et il a toujours été en quête d'équilibre, c'est-à-dire que ce ce que même a tenté de faire Pierre Ristouille, cette quête d'équilibre-là, lui, il ne l'a pas trouvée. Et je trouve même qu'elle s'est agrandie, en tous les cas, au fil des matchs.
Quand, je voulais répondre à Nico qui me disait qu'effectivement, il est arrivé en milieu de saison, donc on ne peut pas parler de pompier de service. Je répète que Jocelyn Gourvennec, pour moi, est davantage un bâtisseur. C'est-à-dire que j'aurais aimé le voir arriver plutôt en début de saison et construire lui-même son effectif. D'ailleurs, la fois où il avait pris une équipe en cours, c'était Guingamp, qui était au fond du trou. Et il y avait eu également relégation, mais là l'équipe était vraiment vraiment au plus mal.
Ouais. Ouais, après moi ce qu'on peut lui reprocher quand même, c'est qu'il a pu construire sur quelques aspects son effectif en janvier.
Corriger certaines choses.
Kadewere, Beni Traoré sur la période de victoire, ils n'existent pas, ou en tout cas il a pris des joueurs de vitesse, des joueurs de côte qui peuvent jouer sur le côté, et il les a pas utilisés. Donc
il a été écouté sur ses demandes au mercato.
Oui, je suis d'accord avec Jean-Marcel. Ouais. Moi je trouve qu'il a perdu un peu le fil au fur et à mesure des semaines. Et je reste persuadé qu'il y avait mieux à faire et qu'en croyant un peu plus à ce qu'il avait mis en place en début d'année 2024, l'issue aurait pu être différente.
Alors Nico, tu es assis à la place de Pab, donc je suis d'accord avec Jean-Marcel, sont interdits, réservés à Pab dans le podcast. C'est juste une petite précision. On va écouter Franck Kita, c'était en conférence de presse ce mardi, expliquer le choix de se séparer de Gourvennec.
Jocelyn est arrivé, on était milieu de tableau, maintenant on est avant-dernier. C'était peut-être pas le bon moment pour lui, voilà, et pour nous de se rencontrer. Toujours est-il que c'est un grand professionnel, c'est une très belle personne, j'ai rien à dire par rapport à son travail. Le fonctionnement était top avec lui au quotidien, que ce soit avec le centre, avec les joueurs, mais manquait l'essentiel à nos yeux, à savoir les résultats. Avec trois victoires, avec des défaites contre des concurrents directs, on pouvait plus rester comme ça.
Pour le coup, on a les mêmes échos, les uns et les autres, du centre de formation, des salariés du FC Nantes, sur l'attitude de Gourvennec dans cet écosystème nantais.
Oui, c'est pour ça que je parle d'un homme pour un projet club, tout simplement. Et c'est vrai que là, ça se passait très très bien avec la formation. Il allait voir les matchs, il regardait les vidéos, il regardait les jeunes, il les intégrait. Il faisait pas toujours jouer, même s'il a quand même mis beaucoup Zézé, je crois, sur les 7 derniers matchs, Zézé était titulaire.
Un peu moins sur la dernière période. C'est-à-dire qu'il en a lancé beaucoup moment.
Il en prenait beaucoup dans le groupe. On se souvient de Boutingham, de Mongo, voilà. Donc c'est vrai que tout se passait bien avec Jocelyn Gourvennec. Avec les joueurs aussi, franchement, ça se passait bien, mais il n'a pas eu de résultat. Donc, il y a un moment.
Un bémol en ce qui concerne les relations avec les joueurs à l'entraînement. Je crois que c'est sous ta plume dans Ouest France que je l'ai lu, David. Voilà, c'est plutôt son adjoint qui animait la séance et lui prenait presque cette posture de
manager
général.
Ça aussi, ça peut peut-être lui. Rapidement, on lui a dit que son staff pouvait poser problème, un peu inexpérimenté. Alors, pas Pierre Espagnol, mais
Kevin
en tout cas,
Plantet.
Kevin Plantet. Qui finalement s'occupait des séances, les animait, les concevait même. Voilà, il lui a manqué peut-être un adjoint, comme à Pierre d'ailleurs, un adjoint un peu expérimenté.
Il a manqué le Jean-Louis Gasset, Laurent Blanc, c'est ça ?
Ou le Cahuzac de Lorient.
Après, Kevin Plantet, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques, mais c'est quand même quelqu'un qui a travaillé avec Bruno Genesio en Chine. Quand il a eu son passage en Chine, il était avec Jocelyn Gourvennec à Lille aussi.
Mais c'est plutôt un préparateur physique.
Préparateur physique, mais il est aussi passé par le centre de formation de Rennes. C'est quand même quelqu'un de. Pour avoir eu l'occasion de le rencontrer, qui est plutôt cohérent sur le plan foot.
Et si on revient donc à ces relations de Gourvennec, ce rapport de Gourvennec au club, au FC Nantes, en fait, il part en bonne entente avec tout le monde. C'est simplement les résultats qu'on manquait. C'est ce que vient de nous dire Franck Kita. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pourquoi ça te fait sourire, Nico ?
Non, c'est vraiment. Ça fait un peu le bon copain. Tout le monde l'aime bien.
Il y
a une défiance qui a été assez importante du public. Quand même. Il part. Enfin, ce qui est le paradoxe, et même peut-être sans précédent, en tous les cas, moi, depuis que je suis là, par rapport à lui se définit comme ça, pour un enfant du club. Alors, il n'est pas né avec ce club-là, il n'a pas été formé à Nantes, mais c'est quelqu'un qui l'a dit, qui était un amoureux de Nantes et du club. Ça, on ne peut pas lui l'enlever.
Et je trouve que beaucoup l'ont oublié, ça.
Oui,
c'est les supporters.
On a le sentiment que c'est quelqu'un, enfin, quand on voit ça, on prend ça un peu de recul. Alors, il est sans doute tombé à la très mauvaise période après Pierre Aristouille et dont il en a été une victime collatérale, ça c'est sûr. On l'a déjà expliqué plein de fois ici.
Oui, pris en grippe parce que les gens voulaient faire d'Aristouille un symbole de la mauvaise gestion
des
Kita.
Et puis il y a eu la communication par rapport à la pétition du collectif nantais.
C'est le deuxième élément.
Le deuxième élément.
Qu'il n'a pas reconnu alors qu'on nous a affirmé par ailleurs que si, à ce moment-là, il avait signé cette pétition.
Voilà, et il y a eu tout ça. Et en fait, c'est le paradoxe, c'est que c'était quand même un esthète plutôt dans le jeu, que c'est quelqu'un qui a toujours défendu l'école nantaise, dont on se réjouissait lorsqu'il prenait des propos ou que lorsqu'il prenait la parole, que ce soit sur les antennes de Canal ou lorsqu'il était en poste ailleurs, il avait toujours un mot pour Nantes et tout le monde était aussi en admiration devant la philosophie de Grovenec et en tous les cas devant l'héritage qui semblait.
Mais il le fera à nouveau, Jean-Marcel. Ce sera un excellent consultant. Hein.
Oui, mais je pense qu'il était. Non, mais il n'était pas en tous les cas fin. Je pense qu'on ne peut pas lui reprocher ça. Le paradoxe, je veux dire, c'est que c'est lui, en tous les cas, se définit comme un membre de la famille du FC Nantes et on a le sentiment qu'il a été rejeté par sa propre famille. En tous les cas, c'est
pas tout le monde. Enfin, bah,
je parle du public.
Je pense seulement.
Je pense que ça a été aussi ça. Peut-être le plus compliqué à vivre pour lui.
Il a très mal vécu, ça c'est sûr.
Et il n'a pas eu le temps d'installer grand-chose, parce qu'on l'a dit, il n'y a que 13 matchs de Ligue 1. Quel bilan, quel bilan pour Gourvenec ? Quelle trace va-t-il laisser dans son histoire
nantaise ? La trace qu'on laisse, c'est ça. C'est que pour moi, je trouve que c'est une image dégradée, abîmée, qui est à l'opposé, en tous les cas, de l'investissement qu'il a consacré lors de sa période-là aussi, mais qui est aux antipodes de l'amour ou de l'admiration qu'il voue à ce club. Et après, par contre, la seule chose, c'est que c'est aussi un bilan paradoxal, puisque au-delà des relations avec la formation...
Il est en train de nous refaire son papier de ce matin, en fait.
Non, mais au-delà des relations avec la formation, c'est quelqu'un, en tous les cas, qui a aussi eu le courage de lancer des jeunes et qui montre qu'on peut lancer des jeunes dans des périodes difficiles.
C'est vrai.
C'est ce qu'il avait dit, d'ailleurs. Il a mis en adéquation...
Qui est né à Aristouille
si
et à Comboiré.
Les gens vont te dire, Jean-Marcel, que là, depuis, à part Zézé,
ça s'est resserré, ouais.
Il a quand même enlevé tous les autres du groupe, ce qui peut s'entendre.
Non, ils n'étaient pas hors groupe.
Non, je te parle. Non, mais
ça jouait
groupe,
moins sur le terrain.
Le week-end, je te parle.
C'est arrivé la première fois à Strasbourg, vous n'allez pas en tirer une conclusion.
Oui, on sentait que ça se resserrait un petit peu de
jeu. C'est arrivé aussi parce qu'il y avait un match de Youth League et certains étaient concernés par la Youth League mardi. Donc voilà, il y a plein de raisons.
Et parce que tout le groupe était revenu.
Ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé à Bordeaux pour Gourvenec, c'est-à-dire que même chose, rejeté par le public. Alors là, c'est pas un ancien Bordelais, hein, Gourvenec, mais en tout cas au club, ça se passait très très bien, beaucoup apprécié par sa direction, par les salariés, par la formation. En revanche, une grosse partie du public n'en pouvait plus.
Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la suite de sa carrière de coach ? Parce que ça fait quand même quelques échecs, une période sans entraîner, et puis à nouveau à Nantes.
Moi, je le vois à un autre poste en fait dans un club. Je vois au poste, on en
manager
parlait, de
général.
Manager général, responsable du recrutement, directeur sportif.
Pour paraphraser Pape, ça dit aussi deux choses. Moi, j'ai bien aimé
c'est la première fois en 4 ans que j'entends ça, mais vas-y, je t'en prie.
Ça dit aussi deux choses. J'ai bien aimé le papier de Régis Teslin dans l'équipe, notamment, qui me disait aussi que c'était compliqué d'évaluer des coachs aujourd'hui dans l'instabilité actuelle du foot français, ouais. Puisqu'on les évalue sur 15 matchs lorsqu'ils prennent une saison en cours, qu'ils n'ont pas fait la prépa. Il prenait l'exemple d'Antoine Camboiré. Antoine Camboiré a son pas la même image à Toulouse qu'il a laissé au FC Nantes. Et pourtant, c'est le même entraîneur. Et la deuxième chose, ça dit aussi de l'évolution d'un vestiaire, en quoi un vestiaire est de plus en plus compliqué, je trouve, à gérer.
Oui, et ça, Comboiré va devoir s'y coller à nouveau avec ce vestiaire nantais. Justement, on termine avec les joueurs en ce qui concerne cette partie sur Gourvenec. Quelle est la responsabilité des joueurs dans son départ ? Est-ce qu'ils l'ont un peu lâché là sur ces derniers matchs, comme certains l'avaient fait quand Aristouille a été viré ? David, on avait parlé de ça à l'époque. Est-ce que les joueurs sont simplement pas au niveau ou psychologiquement complètement down ? Ou alors l'ont-ils un peu lâché quand même?
T'aimes bien le terme
coach.
Down?
Oui, ça fait deux fois.
Ouais, deux
ça
fois.
Fait deux
ouais,
fois. Okay. Un peu moins bien, si tu préfères.
D'accord.
Est-ce qu'ils sont un peu moins bien ou est-ce qu'ils l'ont un petit peu lâché? Vous avez un avis là-dessus?
Est-ce qu'ils l'ont lâché samedi?
Sur Aristouille, je me souviens qu'on a vu le débat.
Oui, on a vu le débat, mais parce qu'on avait plus d'écho.
Non, c'est pas parce qu'il y avait des temps. Moi, j'ai pas le sentiment que déjà le groupe avait lâché Pierre Aristouille. Alors là-dessus, j'ai pas des éléments dessus. C'est pas parce
qu'il y a des joueurs, qui avaient du mal avec Pierre Aristouille quand même. On l'a assez dit.
Non, mais je trouve qu'il y a une confusion qui est terrible. C'est pas parce que t'es joueur et que t'as des conflits ou des divergences avec ton entraîneur.
Ouais, je pense que t'as moins envie de te battre quand tu.
Ah ouais, et donc tu sors sur un 0-0 contre le Havre.
Oui.
Ouais.
Donc où t'as pas pris de but et où
tu fais moins d'efforts.
C'est complètement contradictoire avec ce que tu dis, David.
C'est marrant parce que c'est un débat qu'on a eu avec Nicolas ici, de savoir si les joueurs jouent plus ou moins bien selon le contexte.
Ce que je te dis, tu fais peut-être moins d'efforts.
Les supporters, la direction,
tu fais moins d'efforts. Pour pas prendre de but, faut faire un peu d'efforts quand même, surtout quand t'es une équipe qui prend énormément.
Tu parles du zéro. Si offensivement, tu fais moins d'efforts pour marquer des buts dans ce cas-là, si tu prends le 0-0.
Non, mais après, ce qui est sûr, c'est que
tu parles de la défense.
Non. Autant le groupe n'avait pas lâché Antoine Camboiré lorsqu'il a été démis de ses fonctions en mai dernier, comme le groupe n'a pas lâché en tous les cas Pierre Aristouille en novembre dernier. Pour moi, ce qui n'empêche pas en tous les cas qu'il y avait des joueurs qui étaient mécontents, qu'il y avait une ambiance qui n'était pas
contrarié,
saine.
Et certains critiquaient en coulisses le travail du coach.
Exactement, comme ça a été le cas pour celui d'Antoine Camboré. Mais c'est pas
pour Gourvenec, selon les échos qu'on a.
Il y a eu moins de critiques de joueurs pour Gourvenec.
C'est vrai, récemment pour Gourvenec qui avait réussi à faire une forme d'union autour de lui sans obtenir de résultats pour le coup. On va parler de Comboiré, puisque Antoine est de retour.
On tourne la page, Gourvenec.
On tourne la page.
David Philippot, Jean-Marcel Boudard, Nicolas Mangin, Simon Rongoat. Ah, sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Antoine, je vois David sous la table, ça m'inquiète.
Il fait souvent ça pour avoir des infos.
Ouais, il paraît.
Antoine
ouais.
Comboiré sur le banc. On revient sur cet incroyable comeback de Comboiré et ses conséquences.
C'est Amy Winehouse. Ouais. Alors, par contre,
le titre.
Il n'y a pas Back,
Back to Black. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Un point pour David, un point pour Nico.
Et oh ça non, fait deux pour moi là.
Ah non, c'est pour Nico. Là. He's back, Antoine Comboiré. Commençons par le récit, David, de la soirée de samedi. Les joueurs sont sondés dans la foulée du match après que Valdemar Quita ait dit quelques mots dans le vestiaire. Sondés pour savoir si Antoine Comboiré, c'est une bonne idée ou pas.
Alors que Jocelyn Gourvennec, le président a parlé, Jocelyn Gourvennec, devant ses joueurs, dit « je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas ». Dans la tête de la direction nantaise,
c'est on te lâchera,
déjà,
on te lâchera.
C'est, ouais, c'est un peu ça. Très clairement, rapidement, Franck Quita prend contact avec... avec Antoine Comboiré, et ça tombe bien, Antoine Comboiré est sur Paris.
Ça donc, tombe bien.
Il rentre, l'Equita rentre, Franck Quita rencontre pendant deux heures Antoine Comboiré, ils se mettent d'accord, ils entérinent un contrat de six mois avec plus deux s'il y a maintien, et ils évoquent le staff, Bertucci qui revient, Michel Dufour préparation, à la préparation physique, et puis finalement, le lendemain matin.
Dimanche matin.
Dimanche matin, donc après le décrassage, coup de fil de Franck Quita à Jocelyn Gourvennec, en présence également de Philippe Mao, le coordinateur sportif, et là il lui annonce que c'est terminé pour lui. Voilà.
Pourquoi, et, ouais. C'est, pourquoi cette folie? Pourquoi faire revenir le coach que t'as viré il y a 10 mois parce qu'il était selon toi à ce moment-là incapable de maintenir ton club en Ligue 1? Écoutez Franck Quita aujourd'hui.
Peut-être que le fonctionnement avec Antoine a marqué peut-être un peu trop le club. Il y a une empreinte qui était là d'Antoine parce que quand on gagne ensemble, on a perdu une fois au Stade de France, mais c'est vrai que ça crée des liens incroyables et c'est un fonctionnement qui nous manquait probablement. On a toujours essayé cette année de faire comme Antoine et son staff feraient. On se disait... Ah, peut-être qu'Antoine aurait dit ça, peut-être qu'Antoine aurait fait ça. Bref, on a vécu deux ans et demi qui étaient très forts. On regrettait beaucoup cette période. Et donc, je pense que le retour d'Antoine va redonner beaucoup d'énergie à tout le monde. Et on va retrouver un mode de fonctionnement qui nous correspond.
C'est quand même l'histoire du mec qui se remet pas de son ex, qu'il a quitté. Ah, bah, elle aurait dit ça, elle aurait pensé ça. Et qui est incapable d'imaginer un avenir sans elle.
Je pense que c'est la seule fois où il utilise le « on » alors qu'il devrait dire « je ».
C'est-à-dire ?
Bah, je ne voyais pas de... Moi, quand le staff faisait ça, je pensais à Antoine, je pensais qu'Antoine aurait dit ça. En fait, il était nostalgique d'un fonctionnement et...
Franck Quita, un fonctionnement où il a vu une grande importance, son oui. père étant à l'écart dans toute la période Comboiré.
Oui,
complètement. Oui. C'était... Non, mais c'est vrai, ça se passait très bien avec Comboiré, et puis ça lui permettait, comme Comboiré ne parle pas au président Quita, voilà, c'était Franck, entre guillemets, était... Franck Quita, il était le patron du club, quoi.
Après, moi, il y a... Un petit truc qui me gêne quand même dans la démarche, c'est le fait d'aller sonder les joueurs quelques heures seulement après le match. Déjà,
quels joueurs ont été sondés?
Déjà sondés.
Vous savez, on sait les
Castelletto,
du Chirivella, du Castelletto, ouais. peut-être du Lafont. Je dis bien peut-être là, mais je pense que voilà, ce sont des joueurs comme ça.
Ce sont les mêmes qui avaient été aussi sondés après le départ de Pierre Arrigo. Donc c'est vrai qu'il y a une forte résistance en eux à dire non, surtout changez pas. Enfin franchement, on s'entend super bien.
Et c'était pas les meilleurs depuis plusieurs semaines en plus. Mais non,
ils n'ont pas cette tendance là en tout cas.
Non, en tous les cas, l'histoire montre.
C'est pas qu'ils lâchent, mais ils lâchent un peu quand même.
En tous les cas, s'ils y sont opposés, ils sont pas tellement force de conviction auprès de la direction.
Non mais moi ça me gêne un peu que quelques minutes, heures après un match, la direction pour remplacer le coach sonde 3-4 joueurs comme ça, alors que le...
Bah t'es patron de vestiaire, c'est important de savoir, parce que si tu...
Ouais,
si
non,
tu
non, non,
mais
non,
mais
en fait,
non mais si tu mets Comboiré si tu mets Comboiré et que c'est le feu
non, mais
après...
Si, non mais si je peux aller au bout du raisonnement, c'est vraiment ça qui sont ça.
Mais si tu pouvais parler un peu plus vite aussi, parce que...
Oui, c'est qu'on enregistre tard, je suis pas habitué à ça.
Mais en fait, c'est parce que David...
Parce qu'à 19h30, c'est la soupe et au lit chez les mangeurs, faut le savoir.
Ouais, et David aime pas très... Enfin, pas beaucoup conduire la nuit, c'est qu'il est dans la route et
à rentrer... Bon, les gens s'en foutent qu'il fasse nuit dehors. Vas-y, Nicolas.
J'ai perdu ce que je voulais dire.
Bah ouais, ça devait être un raisonnement sur le pourquoi.
Non, moi je sais, je vais compléter ce que je voulais dire.
Moi ça me gêne qu'on consulte les joueurs comme ça à tout va. D'autant plus qu'on est dans une période quand même où on peut quand même admettre qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas à leur niveau. Alors bon niveau du début de saison ou qu'ils ont pu avoir.
Il n'y a que Moses Simon à consulter. Alors c'est le seul qui est au niveau.
Non c'est pas ça, mais c'est que on leur donne une énorme importance. Alors que Comboiré l'a dit un peu tout à l'heure, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que les joueurs n'ont pas été au niveau. Le coach peut mettre tous les systèmes en place qu'il veut. Si les joueurs sont pas performants sur le terrain, si les joueurs manigancent entre guillemets avec la direction au départ d'un coach à l'arrivée de qui on fait, etc. Je trouve que c'est pas leur place en fait. En tout cas, pas à ce moment-là.
C'est le quatrième changement de coach en moins de 10 mois quand même. Enfin, en l'espace de 10 mois au FC Nantes, je pense que c'est on n'est pas loin d'être sur le coup sur le podium en France.
C'est le quatrième, mais avec 3 coachs différents, je dirais, parce qu'il y a 2 fois Antoine.
Ah, ouais, d'accord.
Ah, excellente imitation.
Il s'est entraîné tout le week-end. Ah, oui. Mais en tous les cas, il y en a 4. Et effectivement, j'abonde dans le sens de Nico. Je trouve que c'est peut-être pas le moment, surtout après un moment où dans le vestiaire, tout le monde tient un discours d'unité. Ou dans ces cas-là, faut dire les choses dans le vestiaire. Dans ces cas-là, parce que là, on a le sentiment que tout est un peu vicié. C'est-à-dire que on fait tous ensemble, parce que quand les joueurs sont sortis après le match de Strasbourg, c'était on s'est dit les choses. C'est important de se dire les choses et en fait, vous dites les choses.
Bon, c'est très bien que ça ne veut rien dire.
Bah oui, on s'est regardé dans une glace, on s'est dit les choses.
Il faut qu'on arrête, les gars, il faut qu'on gagne.
Oui,
le
mais dans ces cas-là, comment vous pouvez tenir après quelque chose d'assez uni et tenir un relationnel pour moi après,
allez, je reviens au choix de Comboiré, Jean-Marcel. Franck Ita nous a expliqué pourquoi il lui manquait. C'était presque sentimental. Pourquoi Comboiré, lui, a-t-il accepté de revenir à Cannes? A-t-il pas de face, nous ont dit certains supporters sur Twitter, pas d'honneur pour revenir avec l'Equita. Voilà ce que nous ont dit certains supporters. C'est un choix, c'est vrai, assez incroyable, aussi bien de leur rappeler 10 mois après que lui d'accepter de prendre ce risque-là. Pourquoi ce retour? Il s'est exprimé ce mardi.
Parce que c'est Nantes, voilà, je l'avais dit, hein, même quand j'étais parti, que j'ai passé mes toutes belles années d'entraîneur ici à Nantes. C'était court, mais très intense, et puis surtout le succès, quoi. Là, on a eu la chance de vivre des grandes émotions, et faut pas se mentir, ça a été une surprise quand Franck m'appelle pour me dire samedi soir on peut se rencontrer. Je pensais pas revenir ici et encore moins revenir aussitôt. Je connais les relations que j'ai avec le président, mais ça reste le président et je m'étais dit ça allait être compliqué. Puis finalement, quand il me dit est-ce que je suis prêt à replonger, à sauver le club, moi je dis oui. Je sais que je suis en mission, il y a 8 matchs et puis 8 matchs pour aller chercher le maintien.
8 matchs pour aller chercher le maintien. Je vais revenir sur ma théorie à la Valdemar du couple et du retour sentimental.
Bah, parce que là, c'est la seule fois où par amour.
Lui aussi, il vient chercher quelque chose qui ne trouvera peut-être pas nostalgique de son passage
ouais,
précédent.
Alors, je pense que c'est la seule fois aussi par amour où tu reviens avec ton ex et que t'es gagnant financièrement.
Excellent, ça, Jean-Marcel. T'as pas compris, David?
Non, mais c'est pas
compris. Je vois sa tête, il a pas compris.
Je vois pas en quoi il est gagnant. Non, Comboiré est gagnant.
Ah, bah oui.
Je voulais qu'on parlait de Valdemar. Pardon,
la question, on a changé de thème, David. La question, c'est. J'essaye de reprendre le récit.
On parle de Comboiré.
Écoute les autres un peu, David.
Non, je voulais qu'on parlait de Valdemar.
Lui aussi, peut-être, veut retrouver ce bonheur qu'il a connu. Et cette année-là de blanc, il se dit, bah, je me suis emmerdé, quoi. J'ai joué au golf, mais
il a quand même rien à perdre. Il a rien à perdre, Antoine Comboiré. Il a tout à gagner. Franchement, si Nantes descend, et puis je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Le loser de la saison, ça sera Jocelyn Gourvennec.
Oui, lui, dans il se barre et on va oublier qu'il sera revenu pendant 8 matchs.
Bah oui, il aura fait que 8 matchs sur 34. Donc il a tout à gagner.
Ça dépend
et en revanche, s'il y arrive,
c'est
un héros. C'est un héros. Voilà, c'est encore un héros. C'est encore plus un héros.
Tout à gagner aussi, tu dis, Nicolas, pour Comboiré dans son retour?
Tout à gagner, je sais pas, mais en tout cas, pas grand-chose à perdre. Il est là pour 8 matchs, ça fonctionne, tant mieux pour lui. Effectivement, il est bien vu, et si ça fonctionne pas, les gens sauront mettre tout le dos sur le dos d'autres personnes.
Donc, on va mettre un bémol avec Jean-Marcel sur le sujet, parce que tu n'es pas sur la même ligne que nos deux amis. Moi non plus, je considère qu'il vient prendre un risque, qu'il vient jouer quelque chose peut-être du passé, et qu'il peut être celui qui va faire descendre Nantes en Ligue 2 quand même dans les
faits. C'est pas ce que les gens retiendront. Simon, là-dessus, tu te trompes. Les gens auront en tête sur cette saison les 13 matchs
non,
de championnat de Jocelyn Gourvennec.
Mais
non, il a pris 10
mais
points.
Mais
donc
il y aura eu
39
possibles. David, c'est pas parce que tu parles le plus fort que tu as raison.
Mais si, évidemment.
Mais c'est comme ça en Vendée. Hein.
En fait, un exemple, je me rappelle de Pierre Aristouille qui, lorsqu'il a été nommé, sa crainte, c'était même une phobie, c'était de faire descendre le FC Nantes. Et qu'il lui restait que 4 matchs, on pouvait pas lui amputer tout ce qui s'est passé le reste de la saison.
Ouais.
Et pourtant, c'était dressé dans l'histoire comme celui qui fait descendre le FC Nantes.
C'est ce que vous avez dit, Comboiré.
C'est exactement ce qui peut se passer pour Comboiré.
Comboiré, il a prouvé des choses avant ici à Nantes. Les gens retiendront que Comboiré, il a emmené Nantes, il a ramené Nantes sur la scène européenne, il a gagné une Coupe de France, il est allé 2 fois en finale de Coupe et il en a gagné une. Les gens, ils garderont ça en tête. Même si ils ne sauvent pas Nantes cette saison, ils ne retiendront pas ça. Je vous dis que loser, ça sera Jocelyn Gourvennec.
En tout cas, moi, dans sa psychologie, j'y revient, je crois qu'il vient finir une histoire et que finir l'histoire
bah,
de,
trop fort, là,
de ce licenciement de la saison précédente. David, vous n'avez pas répondu à la question des supporters. Aka n'a pas de face, pas d'honneur de revenir avec l'Equita après s'être fait jeter il y a un an. Ça, ça vous parle pas du tout?
C'est le propre du métier d'entraîneur. Hein. Ils se font licencier, ils reprennent un club, ils se refont licencier.
Le même club.
Non, moi je trouve que
c'est quand même une situation. Arrêtez, on fait rire la France entière, les amis.
Non, on fait rire. Non, même le Guardian.
Mais oui,
ému,
tout le monde se moque.
En Angleterre,
et d'Equita et de Comboiré qui y retournent quand même. On dit, mais qu'est-ce que
moi,
c'est
je
que
trouve
ce bazar à Nantes.
C'est surtout d'ailleurs ce qui était amusant lorsqu'Antoine Comboiré est revenu à la conférence de presse, c'est qu'en gros, il y a eu quelques allusions en disant, ah, les visages n'ont pas trop changé. Bah oui, c'était hier. Enfin, voilà, la rupture, elle a été confirmée quand même il n'y a pas
c'est
très longtemps.
Sketch.
Effectivement,
bah oui.
Il fallait être. Moi, j'ai eu la chance de passer mon week-end devant ma télé parce que je n'étais pas au stade.
C'est chouette. Et,
ouais, c'est chouette.
Tu veux. N'hésite pas à nous appeler, on pourra te faire sortir un peu, aller au parc.
Quelqu'un a un numéro de SOS Amitié?
Et en fait, ce qui était. C'est que de Canal à Prime, que ça soit sur tous les matchs sur lesquels ils étaient, de Brest à Rennes, en passant par
le soir Montpellier. Ouais.
Mais il y avait tous un rictus sur la part de tous les consultants. Ouais. C'est-à-dire que ça fait, cette situation-là, elle est quand même très risible et elle fait rire tout le monde parce que c'était il y a 10 mois. C'est-à-dire que la personne que tu la rappelles pour, en gros, les éléments contraires pour lesquels tu l'as dégagé.
Bien sûr, mais tout le monde dit dans 8 matchs, on fait revenir Aristouille pour repartir en Ligue 2.
Bah, dans ces cas-là, c'est vrai que Pierre Aristouille a un vrai avenir. Moi, si j'étais lui.
Heureusement que je suis arrivé pour apporter un peu de nouveauté, en fait. Parce
ouais,
que
c'est ça. On tourne en rond, nous aussi, t'as raison. Le Canac peut-il remettre cette équipe à l'endroit? On va parler cette fois de la technique, de la tactique, de ce qu'il peut apporter à ce groupe, le régénérer, mettre du sang frais, comme avait dit Gourvennec. Non, c'était quoi l'expression de Gourvennec?
La réoxygénation
du groupe. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Adriano Chi nous dit sur Twitter, le seul levier qui fonctionne avec ces joueurs, c'est la peur. C'est triste, mais il faut un entraîneur à poigne. Ce sont les seuls qui ont eu des résultats ces derniers temps. Antoine peut y arriver. Le FCK tourne en rond et la vision est ultra court-termiste. Jean-Charles nous dit, d'un point de vue communication, c'est malin, qu'on boirait une bonne image. À Nantes, il aime le club. D'un point de vue terrain, c'est nébuleux. Il a quitté le club sans résultat et il était lâché par certains joueurs qu'il va retrouver. Je crois au maintien si Comboiré choisit les bons hommes sur le terrain, évidemment. Alors, est-ce qu'il peut y arriver et comment, Comboiré, est-ce que vous y croyez?
David a dit non déjà, alors qu'il va nous développer.
Bon, non. Non, j'ai pas besoin de développer. Je pense que le calendrier est beaucoup trop compliqué pour cette équipe. Il l'a dit, cette équipe, elle est en souffrance. Il a pas vu les joueurs encore, mais je pense qu'il a dû voir certains matchs. Il a même pas vu les matchs. Mais
on s'arrête là-dessus. Il a pas vu le dernier Nantes Strasbourg.
Il a dû regarder les stats par contre.
Il a dit qu'il n'avait pas vu Nantes Strasbourg. Mais t'es fou. Enfin, t'es embauché le dimanche.
Peut-être que c'est prévu pour ce soir.
Les matchs disparaissent très rapidement.
Pour moi, ça va être très compliqué.
Moi, je suis pas sûr qu'il ait pas un peu menti. Mais bon.
Quoi, il l'a vu?
Bon, attends, tu regardes le dernier match, un minimum quand même, non?
Je suis pas sûr. Hein. Il a fait que nous dire qu'il avait le temps avec ses adjoints de préparer parce qu'il y a 15 jours avant le prochain match à Nice. Donc, je pense qu'il a le temps.
Je ferme
en
la
gros,
parenthèse.
Voilà, calendrier trop compliqué. Je suis pas sûr que cette équipe, même avec l'avenue de Comboiré, et pour moi, c'était la moins mauvaise solution.
Avec Guardiola, mais il n'était pas dispo. Et Guardiola aurait-il pu lui sauver l'FC Nantes? Non plus.
Non plus.
Voilà.
Non plus.
Avec le calendrier, nous dit David, c'est mort, qui que ce soit. Vous êtes sur.
Il faut un peu d'autres arguments quand même à développer.
Mais non, j'ai dit, cette équipe, elle est en souffrance.
Parce
on l'a vu samedi.
A priori, il y a 3 victoires à aller chercher.
C'est même pas sûr. Il en faudra peut-être plus, Jean-Marcel. Enfin bon, bref.
Alors, on sait pas.
3 victoires, ça t'amène à 34 points. 34 points, ça peut.
Normalement, 34,
cette équipe
ça
qui a gagné 7 matchs depuis le début de saison avait en gagné 3
mais j'ai pas dit qu'il allait réussir.
Et tu peux te maintenir en étant barragiste, hein, avec 2 victoires, 2 nuls.
J'ai dit que l'argument du calendrier, comme seule explication à.
Je t'ai dit, cette équipe est en souffrance. C'est pas mon seul argument, le calendrier. Je t'ai dit, cette équipe.
Développe,
on
est en souffrance.
C'est pour ça que je pose la question des leviers, David.
Justement, on nous présente que c'est un meneur d'homme. Enfin, Franck Kita nous dit, c'est un meneur d'homme, c'est quelqu'un à poigne, il va savoir relancer le groupe, il connaît les joueurs, il va savoir leur parler, il va leur murmurer à l'oreille, il va les relancer. Donc voilà, je sais pas, moi je suis conquis.
Un entraîneur à poigne, il me dit l'auditeur.
Je crois que ça suffira
David.
Pas, mais vas-y, développe.
Alors,
toi maintenant,
j'étais
c'est
conquis.
Bon, donc Nantes va se maintenir, écoutez bien Jean-Marcel Boudard.
Jean-Marcel,
non, j'ironisais, mais c'est
ton avis. En dehors de l'ironie, est-ce que tu partages l'avis de David que c'est une obsession, que Comboiré n'a pas forcément les leviers pour redresser cette équipe-là?
En fait, il arrive dans les mêmes circonstances qu'il est arrivé en 2021. Mmh. C'est-à-dire que c'était le quatrième coach à l'époque, et je pense qu'il y a un moment, à force d'enchaîner les entraîneurs, les joueurs sont mis face à leurs responsabilités. Il y a un club qui l'a fait récemment, c'est Marseille avec Jean-Louis Gasset, où c'est pareil, il y avait une équipe au fond du trou, on ne voyait pas du tout comment on pouvait
incroyable.
Les relever. Et à force d'être, bah oui, mais c'est le troisième coach, c'est ce qu'il leur a dit aussi, et puis en faisant un peu de calinothérapie, pas forcément de la manière forte, parce que je pense en plus, je ne suis pas sûr que ce groupe-là en a besoin de la manière forte, et d'ailleurs, Jocelyn Gourvennec tenait son vestiaire, c'est pas quelque chose qu'on peut lui reprocher, un manque d'autorité.
Et d'ailleurs, Comboiré les a perdus en leur disant que c'était une équipe de merde. Hein, c'est-à-dire le contraire de la calinothérapie.
Donc,
d'ailleurs, il retrouve l'équipe de merde. Là.
Une partie, ouais.
Une partie, ouais, 60% d'effectifs. Donc après, il connaît son groupe, il connaît ses joueurs. Là-dessus, c'est un accélérateur en tous les cas d'intégration. En plus, il a la trêve, il peut préparer. Ça, ce sont des choses factuelles qui peuvent laisser penser, en tous les cas, que la mission est possible. Mais contrairement, en tous les cas, il y a 3 ans, au-delà du calendrier, c'est surtout qu'il y a beaucoup moins de matchs. Il en avait 14 à l'époque, il en a 8. Que si, en gros, sur les deux prochains matchs, à savoir Nice et le Stade Rennais, il prend pas déjà des points, ben c'est complètement. On se retrouve dans une spirale très négative avec la peur. L'Olympique Lyonnais. Ça me paraît très compliqué. Et surtout, il y a pas Randal Kolo Muani dans l'équipe. Il y a pas, c'est pas le même effectif qu'il y a.
Oh, il y a quand même de la qualité offensive.
J'en doute, moi.
Alors, il y en a quand même un peu, mais après, peut-être qu'ils sont la tête dans le seau.
Donc, en fait, tu dis comment ils vont pas se redresser. Il n'y arrivera pas.
Oui, mais j'ai dit, en fait, que si tu m'écoutais, David, en fait, j'essaie de me faire comprendre. En fait, la seule explication du calendrier pour expliquer un échec de Camboré était, je trouvais, très limitée.
Oui, c'est juste que tu manquais d'arguments. Moi, j'ajouterais l'élément psychologique évoqué par Jean-Marcel, parce que la qualité des joueurs, je suis désolé, là, si on les prend individuellement par rapport aux effectifs des adversaires dont on parlait tout à l'heure, Strasbourg, Clermont, Metz, etc., tu dois pouvoir faire quelque chose
on n'est pas en temps normal dans ce championnat. Je rappelle que sur les 8 clubs concernés par la relégation aujourd'hui dans la lutte contre le maintien, à savoir de la 11e à la 18e place, le FC Nantes est le seul cette saison à avoir changé d'entraîneur.
Pour le maintien, je
veux dire, sur les autres, en tous les cas, tous les autres ont misé sur la stabilité de du staff technique,
qui est très rare,
ou en tous les cas sur des changements internes de réorganisation autour du staff. Exemple Lorient avec Cahuzac,
exemple à
Clermont avec, c'est pareil, un partage des tâches avec un nouvel entraîneur pour apporter son vrai. Mais en fait, le FC Nantes est le seul où à chaque fois l'histoire redémarre et on reprend tout et comme à zéro.
Nicolas, quels sont quand même les leviers, je parlais de leviers, les changements, quelle marge de manœuvre a Antoine Comboiré pour essayer de redonner vie à ce groupe et le goût de la victoire?
Mais moi, je pense que ce qui va être important dans un premier temps, c'est vraiment cet aspect mental. On voit des joueurs quand même qui ont l'air à peu près perdus sur le terrain, qui savent plus.
Le symbole, c'est Alban Lafont.
Qui savent plus quoi faire, alors qu'on sait qu'ils sont capables de bien jouer. On l'a vu par le passé, ils sont capables de faire des bonnes prestations. Techniquement, ils sont capables d'être largement meilleurs que ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a une phase. Alors, soit c'est de la calinothérapie, soit c'est on met un petit peu de pression en tant que staff. Ça va dépendre des joueurs et de ce que fait Antoine Comboiré. Mais moi, je pense que le principal levier, il est là. Il ne va pas apprendre à jouer au football à ces joueurs-là en 10 jours de trêve internationale avec 7 joueurs partis en sélection et 8 matchs à jouer. Ça va être du basique. Hein. Et je pense que sur ce groupe-là, s'il arrive à les faire basculer mentalement dans une dynamique plus positive, il y a encore de l'espoir, mais il ne faut pas traîner.
Ces joueurs-là ont bien joué. On a vu quelques beaux matchs. C'était séduisant. C'était période Aristouille, cette saison. Il y a eu quelques mi-temps, quelques prestations intéressantes. Y a-t-il des gagnants et des perdants? Tu as évoqué Jean-Marcel Alban Lafont. On parle de Mostafa Mohamed. Il y a quand même peut-être quelques rancœurs. Quelques rancœurs de la saison dernière qui persistent. Et puis d'autres vont se réjouir du retour de Comboiré. On en prend quelques-uns. Bamba, pourquoi?
Bamba, c'est jamais entendu. D'ailleurs, tiens,
il était déjà un petit peu en dehors du groupe.
Rectifier quelque chose que j'ai pu dire sur Kader Bamba. Kader Bamba avec Camboiré, c'était très compliqué. Il l'a toujours dit. D'ailleurs, il l'avait affirmé. J'ai dit une fois qu'avec beaucoup de coachs, Kader Bamba a eu des soucis. Je rectifie ce que j'ai dit. Avec Camboiré, d'énormes problèmes, mais pas avec tous les coachs. Voilà, je tenais à le dire parce que je sais que le joueur n'a pas aimé ce que j'ai dit ce jour-là.
Il écoute sans contrôle.
Il écoute.
Et il a corrigé. Il a corrigé la saucisse de David. Alban Lafont.
C'est Antoine Camboiré qui avait relancé Alban Lafont, qui était à peu près dans une spirale un peu similaire. C'est lui qui lui a en tout cas qui a contribué parce que c'est pas lui qui est sur le terrain, mais qui a contribué en tous les cas à lui ouvrir les portes de l'équipe de France, qui lui avait redonné confiance en lui donnant les responsabilités du brassard. Enfin, il avait joué un rôle très très important auprès d'Alban Lafont, qui aujourd'hui est un des pires gardiens de Ligue 1. Si ouais. je cite David Philippot, pour une fois, qui a travaillé un peu. Ouais.
C'est feu,
dehors.
Lippo. Hein.
Ouais. C'est feu.
Ah, c'est vraiment pas d'accent.
David Feu Lippo.
Voilà, c'est ça. Et...
en fait, vas-y, si sur vas-y. Les trois derniers matchs, il est à 50% d'arrêt.
C'est bah, il était à la porte de l'équipe de France et il n'est même plus au portail. Non. Il n'est pas encore entré dans le jardin. Donc,
ouais, non,
il
la grille est loin, là.
Donc il peut le remettre.
En tous les cas, ça fait, on pourra pas, le FC ne pourra pas se maintenir sans avoir un gardien.
Oui, oui, il vaut mieux qu'il y ait un gardien dans la cage.
Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed. Est-ce que il voit ça d'un bon œil le retour d'Antoine Comboiré?
Non, on se souvient qu'en l'année dernière, il y avait eu le souci avec Andy Delors, la concurrence avec Andy Delors. Il avait eu beaucoup de mal à accepter l'Égyptien que Andy Delors soit devant lui dans la hiérarchie des attaquants.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'offensivement, il y a beaucoup de cartes qui sont redistribuées parce que c'est peut-être le secteur de jeu dans lequel il y a eu le plus de changements depuis que Antoine Comboiré est parti. Qu'est-ce qu'il va faire avec Kadewere, avec Traoré, avec Ablin, avec Mohamed? Quelle va être sa hiérarchie?
Il aime les joueurs de vitesse.
Quelle va être sa hiérarchie?
Il aime avoir de la vitesse c'est... devant.
Pour abonder dans ce que dit Nico, effectivement, le secteur offensif, là, pour le coup, il n'a pas tout à fait les mêmes armes qu'il avait l'an passé. Donc, et c'est quelqu'un qui, en tous les cas, a construit ses victoires à Nantes sur un jeu de transition rapide et de la vitesse devant.
C'est pas impossible que Mostafa Mohamed goûte au banc de touche.
Et voilà. Qu'on voit la vitesse des Traoré, Kadewere, Moses.
C'est pas impossible. Ouais, c'est
plutôt Comboiré des... sur les joueurs. Tiens, écoutez-le, cet après-midi, ils sont responsables aussi de la situation.
Les joueurs doivent être conscients qu'aujourd'hui, moi je suis le troisième entraîneur de la saison. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont un peu responsables de la situation. Voilà. Ce sont aujourd'hui leurs performances qui font qu'aujourd'hui tu te retrouves avec le troisième entraîneur. Donc il faut se remettre en question et donc il faut se remettre au boulot.
Un petit taquet directement aux joueurs, oui, parce que c'est vrai qu'un club où les entraîneurs se succèdent sans résultat, il y a la responsabilité des joueurs. Elle est pointée du doigt par Comboiré, il est venu pour ça aussi, on est d'accord.
Oui, mais alors c'est une manière aussi, de toute façon c'est une manière juste, il a raison là-dessus, c'est une manière aussi de les placer face à leur responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous n'allez pas pouvoir vous défiler tout le temps, et sous-entendu, c'est une manière aussi d'affirmer son autorité comme il l'avait fait quand elle est arrivée il y a 3 ans. Je vais vous demander ça. Bah, vous allez peut-être éviter de le contester, puisque si on en est là, c'est aussi un peu à cause de vous, si je suis là, ou grâce à vous.
Quelles autres conséquences de son retour au club, les gars? L'omnipotent Antoine Comboiré va tout reprendre en main sur ses 8 derniers matchs, et puis il a 2 ans potentiel derrière s'il reste. Ça commence à grincer des dents du côté des jeunes, de la formation, les rapports avec Valdemar aussi. Quels seront ces rapports-là? On s'arrête sur ces deux points-là, la formation et les jeunes d'abord.
En fait, oui. On lui avait reproché.
Régis Dupont lui a posé la question en conférence de presse, peut-être pour lancer, et on a bien vu qu'il a un peu botté en touche en disant j'ai fait jouer des jeunes.
Alors, il avait surtout préparé sa défense.
Il a préparé sa réponse en disant.
Alors, il nous a dit en fait.
Mais il a pas parlé des rapports avec le centre de formation.
Alors, il a dit qu'ils étaient mauvais et que.
Il n'y a pas une grande fluidité.
Ouais. Il y a deux choses. Il a voulu défendre son bilan en disant en gros, je suis un formateur, j'ai démarré, mais ça, il nous l'avait fait à nous il y a un an. J'ai démarré ma carrière sur le banc du PSG au centre de formation. Je suis resté 4 ans. Je sais ce que c'est les jeunes et j'en ai lancé dans ma carrière. La preuve, pendant mes 2 ans et demi au FC Nantes, j'ai utilisé 10 joueurs. Voilà. Sauf que si on regarde les stats, en Ligue 1, on n'est plus à 10, mais à l'exception de Quentin Merlin, si on tombe à 4, c'est-à-dire quasiment autant que ce qu'a fait Jocelyn Gourvennec.
En 13 matchs.
Voilà. Et si on regarde après le temps de jeu, il est encore plus relatif, puisque le temps de jeu l'an passé des Doucet, Apua, Hachi, Zézé, il est 202 minutes de jeu. C'est à peu près 3 fois moins que Nathan Zézé à lui tout seul cette année. Donc on ne peut pas dire qu'en tous les cas, Antoine Comboiré a été un tremplin pour les jeunes.
Il nous d'ailleurs, a souvent dit qu'ils n'avaient pas le niveau. Donc
d'ailleurs,
voilà,
il y a certains jeunes aujourd'hui qui ont clairement dit à leur agent écoutez, tu peux commencer à me trouver peut-être un club ou une porte de sortie l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il y a une vraie défiance et que ça sera un vrai enjeu pour lui. Alors, c'est sans doute pas l'immédiat et c'est pas là sur les 4 mois où on va le juger, puisque sa priorité, c'est le maintien. Oui. Et après, effectivement, il y a les relations qu'il entretient avec le centre. Et effectivement, ils étaient, lui en tous les cas, avec ses crânes, mais notamment ces déclarations qui avaient mis l'huile sur le feu en disant je doute de la qualité des joueurs. Alors aujourd'hui, il a voulu. Un peu à amender ou donner des gages rassurants en tous les cas dans le discours en disant s'il y a des bons jeunes, je les ferai jouer, je vais m'appuyer sur le centre. On est dans les déclarations d'intention.
Il a peut-être retenu cette leçon.
On verra en tous les cas la vraie l'heure de vérité, ça sera en cas de maintien s'il est prolongé de 2 ans. Et en tous les cas, Franck Kita l'a laissé entendre. C'est un fonctionnement dont lui était content ces dernières années et dont il était nostalgique et qui souhaite reproduire. Donc on peut supposer en tous les cas que, si on doit se projeter dans l'avenir, que ça continue de grincer des dents et que ça couine sans remise en cause un peu de tous les acteurs.
Sur le centre de formation, vous voulez ajouter un mot ou sinon on parle de Valdemar et des rapports avec Valdemar, parce qu'il a quand même cette phrase qu'on a entendue tout à l'heure qui est assez exceptionnelle. Vous connaissez mes rapports avec le président, en gros bah, c'était
tout le monde le sait.
Très
oui, voilà,
très tendu,
ouais.
Mais bon, je reviens quand même et puis on va repartir comme
oui,
en
40. Parce qu'il va comme à l'époque, il va bosser avec au quotidien avec Franquita et finalement il n'aura quasiment jamais affaire à, et c'était le cas hein, quand il était là de 2021 à 2023, il avait très très peu Valdemar Quitta au téléphone.
Et on donc, a est-ce qu'on croit Franquita quand il nous dit que c'est une idée de Valdemar de faire revenir Antoine Comboiré?
Non,
d'où ça sort ça?
Non, bah, je sais pas d'où ça sort, parce que franchement l'idée, on sait très bien qu'elle émane de Franquita.
Et inversement, est-ce qu'on croit Antoine Comboiré quand il nous dit qu'il n'y a pas un appel du pied à travers l'interview qu'il a donnée à nos confrères de l'équipe il y a une petite semaine, où finalement il est un peu nostalgique de sa période?
Bah oui, il a quand même fait acte de candidature dans cette interview donnée à l'équipe, donc il y a une semaine pile. Après, est-ce qu'il pensait vraiment... Comment imaginer que le FC Nantes allait le rappeler? Franchement.
Non, puis après, ça coïncide
et puis,
avec.
Il parlait d'une sélection en plus.
Non, puis ça coïncide qu'il... avec son retour médiatique où il vient faire une journée sur Prime. Donc voilà, mais dans la conf, tu as parlé d'une phrase sur Valdemar Quitta, mais il y en a une autre qui est tout aussi exceptionnelle quand il explique qu'ils se sont parlé et qu'en gros, on a tous les deux des caractères de cochon, on s'aime pas, mais on s'entend pas, mais bon, pour le bien du club, on va y aller. Alors ça, c'est quand même formidable.
Ouais, mais c'est pas. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont déjà dit ça par le passé, on sait comment ça terminait.
Mal.
Voilà, parce que tous les deux, là, en gros, il y a l'intérêt supérieur. On est un peu dans l'urgence. On met nos égos de côté sur 8 matchs. Le problème, c'est que si en cas de maintien, il prolonge. Et c'est 2 ans de vie commune derrière qu'il faut imaginer. Mmh. Et là, sur la durée, ça serait un peu plus compliqué. On parlait de Mostafa Mohamed demain. S'il le met, s'il le relègue, en tous les cas, à une autre hiérarchie qui était la sienne sous Gourvennec, c'est quand même le joueur du président Quitta. Je pense qu'on n'empêchera pas Valdemar Quitta dans les tribunes de pousser des cris d'orfraie.
Il n'y aura pas Hudson à gérer, qui est l'autre joueur de Valdemar Quitta.
Ça,
c'est la bonne nouvelle. C'est quand même un entraîneur, il faut se souvenir.
Et en même temps, Simon, je précise là-dessus, c'est que l'année dernière, lors de son départ, on avait fait un peu l'autopsie de ce qu'avait, en tout cas, dysfonctionné chez Antoine Comboiré. À sa réussite, à son crédit, faut lui reconnaître qu'il avait tout compris du fonctionnement du club. C'est-à-dire qu'il palliait aussi
et
l'absence.
Quitta.
Il palliait en tous les cas un président à distance qui délègue énormément et un directeur général qui est content quand on prend les décisions à sa place. Et donc, il s'était engouffré en tous les cas dans cette brèche-là, Antoine Comboiré, et il l'avait très bien frais. Il avait fait le ménage chez les agents. Il était montré au fond sur plusieurs choses. Le problème, c'est lorsque forcément on devient omnipotent, on en arrive aussi à pas écouter les uns et les autres et donc à pas fonctionner non plus dans l'ensemble de l'intérêt du club. Et c'est aussi ce qui peut se passer.
D'ailleurs,
et c'est aussi pour ça qu'il y a des crispations sur les autres
composants. C'est sous Comboiré que Franquita se débarrasse de Moji Bayat, l'agent belge, souvenez-vous.
Et
Puisque tu parles du ménage fait chez les agents,
oui.
C'est à ce moment-là.
C'est le risque, en fait.
Et
c'est de donner
prend
trop
une autre dimension dans la gestion quotidienne du club.
Oui. C'est le risque, c'est de donner trop de pouvoir à un seul homme. Et en même temps, on nous dit que ce fonctionnement-là, on va le reproduire en cas de...
Je sens que vous êtes emballés, les gars.
Mais souvenez-vous quand même.
En fait, c'est l'avantage, c'est quand t'as une ex, tu sais à peu près, tu peux pas lui raconter n'importe quoi.
Tu sais comment ça marche. Mais souvenez-vous justement, quand on faisait le bilan...
Ça va plus vite, mais tu peux pas lui raconter n'importe quoi.
Quand on faisait le bilan, tu nous parleras de ton cas personnel après.
Pab m'a beaucoup confié des choses dans sa vie perso.
On a quand même fait le bilan il y a un an de Comboiré. On a dit du bien, on a dit du mal, on a fait le positif et le négatif. Et c'est quand même incroyable de se dire que le seul véritable moment de gloire ou de réussite de Valdemar Quitta dans ses 17 années, c'est cette soirée de Coupe de France où le FC Nantes remporte la Coupe au Stade de France. Et ce soir-là, son entraîneur, au micro, devant la France entière, dit « Je sais très bien que ça se passe pas bien avec ce président et que c'est impossible de bosser avec lui, en gros, mais nous, on l'a gagné pour nous et entre nous. » C'est-à-dire qu'il fait revenir, il y a un côté psychanalytique incroyable, il fait revenir cet entraîneur-là qui a dit ça de lui et qui l'a en partie humilié devant le reste de la France, non ?
Oui,
ouais, mais je crois qu'on existe aussi auprès de Valdemar Quitta quand...
On lui résiste.
Quand lui résistant, déjà. Et il reconnaît aussi, il juge beaucoup les gens par rapport à la valeur de l'argent.
Quand on lui coûte cher.
Exactement, quand on lui coûte cher et qu'on lui résiste.
Et qu'on lui résiste, contre Cessao, c'était pareil. Hein. Et ça s'était d'ailleurs c'est plutôt vrai. Très bien passé contre Cessao. Je pense que Valdemar Quitta, il en avait très très peur du portugais. Hein. Donc, comme par hasard, ça s'était bien passé. Et là, je pense que Quitta, il a peur un peu de Comboiré. Et puis surtout, il a peur de descendre en Ligue 2.
Donc,
surtout
ça, va.
Allez, laisse-le. Non, mais
comme quoi,
aux
abois, on peut prendre les décisions les plus improbables.
On en parle justement d'Ekita et de leurs décisions.
David Filippo, Jean-Marcel Boudard, Nicolas Mangeard, Simon Rongoat. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
L'Ekita continue leur cirque. Comment en est-on arrivé à une saison à trois coachs? Et puis, on évoquera aussi la colère des supporters vis-à-vis de la direction.
Florent Pagny. Ah bah, je connais quand même.
Le titre.
Il a encore une cassette dans sa voiture.
Moi, tu m'as oublié.
N'importe quoi, non?
Oui.
Sympa les soirées chez David.
Allez, on y va.
Et tu crois que je vais rester sans rien dire.
Je sais pas.
Si si, on connaît. Mais...
À trois pas.
On peut faire
ce temps. Je vais rester planté là. À te voir mourir dans tes délires. De regarder faire.
Faut savoir que la musique s'est arrêtée dans les années 2000.
Hein. C'est ça.
Je vais pas rester à te regarder faire n'importe quoi, dit Florent Pagny, une saison à trois coachs, comme on pouvait presque s'y attendre. Le fiasco était-il d'abord la responsabilité d'Ekita? Quelques messages sur Twitter. Papy Gâteau nous dit: ceux qui sont responsables de ce fiasco sont le père et le fils à la tête du club. Ils ont viré un entraîneur qui faisait une saison honorable pour prendre un entraîneur qui a précipité l'équipe en fin de tableau. C'est toujours la même rengaine avec eux. Rico nous a envoyé sur Twitter: ce club est pourri de l'intérieur avec une direction qui n'aura jamais proposé de projet sportif en 17 ans. La masque Carade a assez duré. Avant qu'on en parle, nous, la réponse de Franck Kita, qui a été interrogé sur ce bilan, sur ses choix, ses atermoiements, et on lui a demandé s'il ne regrettait pas, par exemple, d'avoir viré Aristou, notamment.
Si on est là aujourd'hui, c'est que forcément, on a tous fait des petites erreurs. Je ne réfléchis pas au passé. On pourra faire un point en fin de saison lorsque le maintien sera obtenu. On pourra faire un bilan avec grand plaisir. Mais c'est vrai que je ne me suis pas posé pour faire les pour et les contre de nos décisions de cette année. Bon alors, si vous souhaitez aller sur ce terrain-là, ces trois dernières années, donc on n'a jamais proclamé qu'on allait finir champion. Il y a trois ans, on s'est maintenu au barrage. L'année d'après, on vous a amené au Stade de France. On a ramené un trophée. L'année d'après, on est retourné au Stade de France. On a joué la Coupe d'Europe. On a été jusqu'en 16e de finale. Vous voulez parler de la globalité du club? On va en parler avec grand plaisir. Les moins de 19 ans, c'est deux fois champion d'affilée. Le FC Nantes est connu pour le centre de formation. Donc il n'a jamais aussi bien fonctionné. On arrive même en Final Four de la Youth League. On est le deuxième club français qui arrive jusqu'à là. Les filles sont deuxième, de deuxième division. La réserve est deuxième. Bon, c'est vrai qu'on peut faire mieux, mais avec le budget qu'on a, je pense qu'on est pas trop mal. Ensuite, maintenant, ce qu'on arrive à faire, c'est de prolonger nos cadres. C'est comme ça qu'on construit un club. Ensuite, on arrive même à garder nos jeunes talents. On arrive à prolonger des joueurs comme Nathan Zézé. On se débrouille pas trop mal, parce que je vous demande de me juger sur les résultats. Peut-être pas sur la forme, toujours. Je vous l'accorde, ça pourrait être un petit peu différent. Mais les résultats sont là. On est dans un sport de haut niveau. Et je vous demande de juger que les résultats. Maintenant, on vend même des joueurs qui vont dans des grands clubs qui jouent la Coupe d'Europe. Donc, si vous voulez qu'on parle de bilan, on est à 8 matchs de la fin. Je vous ai parlé de maintien. On est toujours dans la route pour le maintien. Donc voilà, ces trois dernières années, c'est le bilan que je dresse moi.
C'est un excellent commercial, j'ai envie de l'acheter la bagnole.
Et les
franchement,
poussins,
il a
oublié de le dire, mais les poussins sont premiers aussi.
Oui,
et
le gardien du stade est champion de fléchettes cette année.
Ce qu'il a oublié de dire quand même, c'est qu'avec le budget qu'on a, c'est 9e du championnat sur 18. Et une équipe qui lutte pour le maintien.
Ça fait trois saisons sur quatre.
Voilà. Au niveau des commerciaux, ils sont champions du monde de CAPS.
Bon, il avait préparé
sa défense. Après, je trouve qu'il aurait dû faire un mea culpa plus franc, plus massif sur. Parce que très clairement, il faut le reconnaître, il s'est planté.
Non mais il s'est planté deux fois.
Il s'est planté deux fois, donc il aurait dû faire un mea culpa et je trouve que là il parle de petites erreurs.
Je pense qu'on parle pas
c'est un peu dommage.
On parle pas des mêmes fois. Non, deux fois parce que
non, parce que je pense qu'on parle pas des mêmes fois. Pour moi, la première fois où il se plante,
en
fait, leur première erreur et d'ailleurs qui déclenche tout le reste, c'est-à-dire c'est de nommer un coach dans lequel ils ont aucune confiance et qui veulent pas. C'est ça la genèse de cette situation aujourd'hui. Et à partir du moment où ils le nomment, soit ils lui font confiance et lui donnent les moyens et lui facilitent le travail,
soit dans ces cas-là, ils nomment pas, ils s'appelaient directement Jocelyn Gourvennec.
Oui, mais la deuxième erreur, en plus, c'est de le virer Pierre Aristouille.
Et la deuxième erreur,
pas au bon moment.
Exactement.
Qu'ils le virent, bon, c'est leur problème à un moment donné, mais pourquoi le virer après un match nul à domicile alors que vous êtes 12e, que vous prenez des points, qu'il n'y a pas le feu au lac, il y avait.
Et que la saison
n'est pas encore suffisamment avancée pour avoir peur. Moi, je pense qu'il y a une deuxième erreur à ce moment-là. Pourquoi le virer ? C'est le timing du licenciement. Et la troisième, c'est de prendre un coach qui doit les rassurer, mais qui est plutôt un coach pour un projet de long terme, comme l'a dit David tout à l'heure, et qu'il n'a pas le profil de pompier de service, Jocelyn Gourvennec.
Ces trois erreurs-là, sur une saison, dans un contexte historique, la période Kita à Nantes, où on se moque déjà dans toute la France de la valse des entraîneurs sous Kita. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui arrive de rien. Il y a eu une période, c'est vrai, un peu plus longue avec Antoine Comboiré, mais finalement, on est revenu à un fonctionnement normal, on n'a pas confiance dans les coachs, et à chaque fois qu'il y a quelques résultats négatifs, c'est terminé.
On panique vite à Nantes. Enfin, en tous les cas, je trouve qu'on...
Mais pourtant, il a dit qu'il aimait bien l'adrénaline de la psychose, si j'ai bien compris. Hein, avoir peur, quoi.
Ça, je vais le mettre à la fin sur la question de la vente ou pas,
d'ailleurs. Tu le mettras, pardon.
Ouais, mais c'est prévu parce que là aussi, psychologiquement, c'est intéressant. Mais sur leur gestion et la façon dont ils... je parlais du Kita Circus. Le mot est revenu à nouveau partout sur les réseaux, les supporters, la colère des supporters dont on va parler dans un instant, sur l'incapacité à construire un projet. Ça, il n'a pas véritablement de réponse à cette question-là.
Non. Bah, on fait le même constat. Il a des questions sur les résultats, mais on va pas dire qu'il est en première ligne quand même. Il a mis quand même les féminines. Dans ces cas-là, c'est Philippe Mahou, puisque c'est lui coordinateur sportif, et puis éventuellement, on peut attribuer à ceux qui sont éventuellement sur le terrain sur les féminines. Le centre de formation, on va pas dire que
les résultats des jeunes.
Il y a un entrisme en tous les cas ou une intervention très forte de la direction. D'ailleurs, le président Kita n'était pas au match de Youth League contre
Copenhague.
On peut pas, enfin voilà, il y a des aides à la formation, mais on peut pas dire non plus que le vrai domaine de compétence est en tous les cas qu'accapare 95% du temps des Kita sur le FC Nantes, ça reste l'équipe première. Sur l'équipe première, ils jugent d'abord les coachs sur le résultat.
Et ce qui doit être ta tête de gondole, c'est-à-dire l'équipe première, on voit bien que depuis quelques années, ça ne fonctionne pas en championnat.
Et auquel cas, dans ces cas-là, tu pourras dire... Enfin, il faut se rappeler aussi des discours qu'on nous a tenus avant le retour du FC Nantes en Europe, sur la scène européenne.
Oui, l'année dernière, Valdemar Kita a dit qu'il allait construire une équipe...
solide, avec un gros projet. Enfin, voilà, donc on ne peut pas non plus...
Comme chaque année,
oui.
Depuis 17 ans.
Et le FC Nantes, c'est quand même le 9e budget de Ligue 1.
Bien sûr, c'est une des plus grandes villes de France, il y a une passion autour du club, il y a un stade qui est plein, il y a tout pour construire quelque chose.
Aujourd'hui, c'est un club qui sous-performe par rapport aux moyens financiers dont ils sont dotés.
Et l'illusion de la Coupe de France, et ça n'est pas enlevé ce qui a été fait, bravo à eux, Comboiré, les joueurs, etc. C'est aussi un parcours avec un tirage favorable qui amène des circonstances
une
victoire. Non, mais on se l'est déjà dit.
C'est l'histoire de la Coupe, ça.
Oui, c'est l'histoire de la Coupe, mais ça ne doit pas nous tromper sur la valeur réelle de cet effectif.
Ouais, deux fois d'affilée, quand même.
C'est le classement de la Ligue 1 qui te dit ce que vaut ton équipe par rapport aux autres en Ligue 1. Pour moi, voilà.
Mais en tous les cas, c'est l'année où ils ont assuré le maintien le plus confortablement de ces quatre dernières années.
On parle des responsabilités. Le fiasco est-il d'abord la responsabilité des Kita ? On a dit évidemment oui. On va en reparler vis-à-vis des supporters. Juste une petite parenthèse sur la cellule de recrutement. Est-elle responsable également de ce fiasco ? Première année que nous avons un responsable du recrutement, nous dit CHS sur Twitter. Demandé depuis tellement longtemps, après une saison compliquée. Mais finalement, c'est aussi son échec. Peu de recrues jouent. La plupart n'ont pas bonifié l'équipe. On a très peu parlé de son échec et de l'échec du club sur ce point, David.
Bah oui, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que le FC Nantes a vraiment travaillé. En tout cas, a mis en place l'été dernier une cellule de recrutement avec un homme, Baptiste Drouet, qui venait de Lorient, et il a pu ensuite choisir ses scouts. Lui, il est chef scout, il a choisi ses scouts. Ils sont 4 en tout, je crois, donc à travailler, plus Philippe Mahou,
les premiers retours
coordinateur sportif.
En
matière de recrutement, je voulais dire que c'est un paradoxe, qu'il y a une vraie cellule qui est mise en place, et ça, on l'attend depuis un moment à Nantes, et c'est vrai que là, pour le coup, le recrutement, on ne peut pas dire soit extraordinaire. On sait que ce n'est pas une science exacte, hein, simple. Et en plus, il y a eu des changements de coach.
Non, puis il travaille dans un contexte qui n'est pas.
Autant je suis parfois en désaccord avec des choix de la cellule de recrutement qui ont été faits, ou par exemple comme nous faire passer Mathis Sablin comme un joueur de rupture et de profondeur. Mais par contre, autant là-dessus, on va quand même pas tout leur mettre sur les épaules.
Et d'ailleurs, en janvier, on était plutôt séduits. Pardon, Jean-Marcel.
Ce qu'il faut savoir, c'est la cellule de recrutement, elle travaille pour qui ? Elle travaille pour Pierre Aristouille ? Elle travaille pour les intentions de jeu de Jocelyn Gourvennec ? Non, elle façonne plutôt l'effectif de de comment Antoine Camboire, enfin je veux dire à un moment
et elle travaille pour Franck Kita et elle travaille pour Valdemar Kita qui ont parfois des avis différents.
Donc c'est quand même un peu compliqué, je trouve, là aujourd'hui de d'avoir une ligne de conduite et de s'inscrire et de pouvoir se projeter et d'avoir de la visibilité.
La colère des supporters vis-à-vis de la direction est-elle à son maximum à la fin de la rencontre? Il y a quand même eu quelques mouvements au bas de la tribune Loire, notamment avec une cinquantaine, peut-être une centaine.
Je pense qu'elle n'est pas à son maximum, non.
Une centaine de supporters qui sont descendus de la tribune, mais qui n'ont pas envahi le terrain. Ils sont restés derrière les panneaux publicitaires bloqués par les stadiers puis par les CRS. Le discours de Romain, le leader de la brigade Loire aussi, leur demandant de bien rester et de ne pas envahir le terrain pour ne pas être responsable de quelque chose. Le marasme était suffisamment pointé sur la direction à ce moment-là. Écoutez quand même ce que dit Romain après le match dans les haut-parleurs à l'ensemble du stade. On n'entend pas bien, je vais traduire. Hein. Cela nous pendait au nez depuis des années. On y va tout droit, c'est terminé les gars, c'est terminé. Sur le terrain, on n'est plus là depuis longtemps, il n'y a plus personne qui répond. Vous vous foutez de la gueule des gens qui sont au stade. Tous les gens qui sont en tribune, vous foutez de la gueule de tout le monde depuis très longtemps. Ça va vous chauffer au cul. Là, il n'y a plus personne qui répond à l'appel dans ce club. Valdemar, il est temps de partir maintenant. Il est temps de partir, ça fait 17 ans. C'est terminé, Valdemar. Voilà ce que dit notamment Romain à l'ensemble des tribunes. Avant de réagir à cette prise de parole et à ces mouvements des supporters, on va écouter la réponse de Franck Kita et de Antoine Comboiré cet après-midi sur cette colère et peut-être l'union sacrée qui ne se fera pas comme l'année dernière autour de Comboiré et de ses joueurs.
On était tous en colère après le match de Metz, de Clermont, de Strasbourg. Je comprends parfaitement qu'ils soient en colère. À nous de faire renverser la tendance, les refaire revenir vers nous, parce que c'est vrai que perdre à la Beaujoire, c'est un scandale. Surtout quand on joue le maintien et qu'on perd contre les concurrents directs, donc c'est à nous de renverser ça. De toute la manière, on se maintiendra pas tout seul, on a absolument besoin des supporters. Là où il faut gagner les matchs, il faut être fort à domicile, et on était fort notamment parce qu'ils mettent une ambiance exceptionnelle, et le maintien ne se fera pas sans eux.
Mais pardon, par rapport à la question, c'est vrai que c'est un sujet, et donc il n'y a pas de maintien sans le soutien des supporters. Donc, on a besoin d'eux. On a vraiment besoin d'eux. Et donc je vais t'amener à certainement les rencontrer. Sauf s'ils ne veulent pas me voir, mais moi j'ai envie de les rencontrer.
On entend David finir la phrase d'Antoine Comboiré, hein, tu as écrit son texte, donc tu finis sa phrase. Les rencontrer. Voilà. Donc il va essayer de les rencontrer, ses supporters Antoine Comboiré. Je ne sais pas comment il va être accueilli, parce que ce qu'on vient d'entendre, et puis les échos qu'on en a, c'est qu'il y a toujours cette colère. Et
après,
que...
il y a la démarche, elle est à saluer de la part d'Antoine Comboiré. Elle est à saluer parce qu'il est dans une démarche de dialogue, et puis c'est toujours bien de rencontrer les supporters. Après, je pense que par contre, s'il l'apprend, connaissant un peu le caractère d'Antoine Camboré, c'est que je pense qu'il a pris aussi la mesure que le contexte était complètement différent de lorsqu'il est arrivé il y a 3 ans, en tous les cas.
On se souvient de l'année dernière des supporters qui sont venus à la Genéière discuter avec le groupe. C'était un peu musclé, l'échange avait été un peu tendu, mais ils étaient partis en disant jusqu'au bout, on y va. Et
en fait, il arrive après Domenech, c'était aussi sulfureux, sauf qu'il y avait en tous les cas des joueurs... On n'était pas allé au bout de l'aventure. Enfin, je trouvais en tout cas, on n'était pas au bout de l'aventure. Là, aujourd'hui, il y a une usure aussi, je pense, chez les supporters. Il y a eu une vraie désillusion, en tous les cas, après la nomination, éviction de Pierre Aristouy, quelles que soient les raisons d'ailleurs. C'est juste le symbole, en fait, et en tous les cas, l'incarnation de quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est aussi pour ça que derrière ça a provoqué autant de déceptions et oui, désillusions chez les supporters. Donc je pense qu'il se rend compte aussi qu'il est sur un volcan,
Antoine Camboré, qui a commencé à exploser
et qui se dit qu'il ne pourra pas non plus jouer contre son camp et contre une partie du public. Donc comment lui va réussir aussi, au-delà du discours qui va venir aux supporters, à emmener aussi les supporters à y croire au-delà de l'équipe au regard de l'absence d'âme qu'elle dégage sur le terrain. Parce qu'il y a aussi ça, je pense, c'est une équipe qui s'est fait bousculer en janvier par ses propres supporters. Et ça n'a pas changé grand-chose, quoi. Ça n'a pas changé grand-chose dans les attitudes, en tous les cas, même si on n'a pas le sentiment. Je dis pas que c'est une équipe qui triche, mais en tous les cas, ce n'est pas une équipe qui dégage quelque chose.
Mais là, justement, ça va se passer sur le terrain. On a beaucoup parlé de l'aspect mental, mais le seul moyen pour éviter que le volcan finisse son éruption, c'est un des résultats, et vite, et deux... du jeu, alors on s'entend, ouais, mais
même pas des résultats,
en tout cas une impression de dégager sur le terrain qui donne envie de voir. Sans ça, effectivement, je pense qu'Antoine Comboiré, il a bien compris que que ça pouvait finir difficilement pour le FC.
Parce que le discours aussi qui est tenu un peu par Romain en fin de match, si on peut le j'ai pas la prétention de le décrypter, mais c'est
il a parlé longtemps, hein, le leader de la brigade.
Et puis moi j'y étais pas en plus. Donc mais en tel que l'extrait que j'entends, c'est un peu vous êtes gentil, on est là depuis longtemps, vous a soutenu un peu dans les moments difficiles, parce que c'est quand même la troisième fois en 4 ans.
Il
n'y
aura plus d'union sacrée. Hein, il a dit quelque chose de cet ordre.
Ah, c'est la troisième fois en 4 ans en tous les cas que tu joues ton match, et ça dépend dans quelles conditions tu joues. Si tu es derrière armé pour le faire. Je prends l'exemple de Lorient parce que c'est proche et puis on s'y intéresse un peu. Il y a une grave crise, mais tu as une vraie remise en cause, en tous les cas, du fonctionnement à l'hiver. Et en fait, tu as une équipe qui dégage de nouveau quelque chose sur le terrain que tu as envie de soutenir. Aujourd'hui, c'est franchement pas le cas. Et en plus, au regard des alternants de la direction depuis plusieurs années, forcément, je pense que du côté d'eux, c'est un peu la goutte d'eau. Et oui, je pense en tous les cas que ça sera difficile pour cette équipe-là de pouvoir s'appuyer sur le soutien des supporters.
Le désespoir de certains
D'ailleurs,
supporters.
Il n'est pas impossible qu'il n'y ait pas du tout de soutien sur les prochains matchs. Hein,
sur le prochain match.
Sur le prochain, mais peut-être deux même. Hein,
tu parles du huis clos potentiel.
Ouais, huis clos potentiel du stade sur Nantes-Lyon et peut-être Nantes-Rennes. Ça voudrait dire qu'il resterait.
Verra.
Oui, on verra. Non, mais
on
ne
va pas faire le débat là-dessus, David.
Oui,
on
le refera, mais c'est important. Non, mais, je ne veux pas faire le débat.
Non, d'accord. Mais
je dis juste qu'il est possible qu'il n'y ait pas de soutien sur le prochain match à domicile. Bah, et peut-être les deux prochains. On ne va pas rentrer dans le débat, Simon.
Voilà.
On ne sera pas d'accord.
À cause des fumigènes et des décisions de la Ligue. Le désespoir de ses supporters, David, on les écoute au micro It West juste après le match.
Le désespoir, aucune envie dans le jeu. C'est limite à vouloir abandonner le supporteriat que j'ai avec le FC Nantes, alors que d'habitude, je suis quelqu'un qui ne les lâche pas. Mais là, j'ai qu'une envie, c'est de les lâcher.
C'est vrai que nous, on est quand même désespérés. Et ça peut très, très mal finir si on continue sur cette lancée-là.
Je pense que le match résume la situation du club actuel, c'est un peu la merde, quoi.
On fait questionner entraîneur, on fait pas confiance à des entraîneurs qui étaient bons.
Je pense que là, tu nous mets en Ligue 2, on est à notre place milieu tableau.
Milieu tableau Ligue 2.
Ça fait longtemps que ça vient, donc va falloir y aller un jour. Hein. Bah, changer de président. Ça fait longtemps qu'on l'attend, mais ça viendra peut-être. On perd pas espoir.
Ça viendra peut-être, un changement de président, on perd pas espoir. Ils sont quelques-uns à m'avoir dit ça au micro après le match. On va finir là-dessus, d'ailleurs, David, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, l'aspect psychologique des choses à nouveau. On va pas faire de la psychologie de comptoir, mais vous êtes nombreux à nous demander, y compris sur Twitter. GR, tiens, par exemple, dit à un moment donné, à trop cumuler les incompétences et les erreurs, la L1 doit nous éjecter si elle veut se respecter. Le Kita Circus mérite la Ligue 2. Virer un énième coach ne réglera aucun de ses problèmes. Et, comme le disait Romain tout à l'heure, vous êtes maintenant nombreux dans notre sondage aussi à choisir l'option Kita out et à vouloir le départ des Kita du club. Et pourtant, j'ai le sentiment, encore une fois, à travers la conférence de presse de ce mardi après-midi, qu'ils ne vendront pas et que Franck Kita, parce que c'est une boîte à émotions, le football, dans une vie à côté peut-être un peu terne, pour Valdemar, c'est le rendez-vous du week-end, eh bien, on s'y accroche, écoutez-le.
Mais vous avouez quand même que vous avez vécu des émotions incroyables pendant ce maintien. C'est vrai, même le maintien en fin d'année, c'est exceptionnel. Quand les gens envahissent la pelouse, c'est exceptionnel. Une émotion de dingue. Où est-ce que vous allez trouver ça ailleurs? Non? Donc, quand il y a 18 clubs et qu'il y a beaucoup de clubs qui jouent le maintien, mais il y a beaucoup de clubs aussi qui jouent la Coupe d'Europe, il y a le stress partout. Il y a des enjeux financiers dans tous les clubs. Non, je crois qu'on se nourrit de ça. On a besoin de ça. Moi, ça me motive d'une manière incroyable. Ça me rend... Ça me donne une énergie incroyable, je vous promets. Donc je crois que j'ai besoin de ça. Une semaine de trêve, je m'embête, je tourne en rond, je suis mieux ici. Bah, c'est ça la vérité.
Une semaine de trêve, je m'embête, j'ai besoin de ça. Certains, après cette sortie-là, ont dit il est au second degré, il se fout de notre tronche, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit là.
Bah, moi, je pense qu'il est terriblement sincère, en fait, aussi.
Oui,
je suis complètement d'accord, j'acquiesce.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, il y a plein de gens qui parfois sont étonnés sur, en gros, le FC Nantes, c'est sans doute 90% des emmerdes des Kita qui ont autre chose. En tous les cas, le président, lui, a autre chose, a des affaires à côté. C'est 90% de leurs emmerdes, mais c'est toute leur visibilité et c'est aussi leur existence. C'est un peu comme si toi, t'es dans ta maison, David Philippot, que t'es en vacances.
Philippot,
ouais, j'ai du mal à...
C'est comme si David, dans sa maison...
Ouais, dans sa
ouais
maison,
voilà,
c'est comme si, dans ma maison, je fais quoi?
T'as une maison de vacances, dans une cité balnéaire. Toi, tu vas tous les week-ends à la plage, t'as une maison
c'est
entretien. Des fois, ça te fait ça t'emmerde, tu as un peu d'entretien, t'as taxe foncière qui t'embête et puis t'as
les moyens.
Mais là,
ils sont quand même un peu maso quand même, franchement.
Pourquoi
c'est du masochisme.
Non, bah, mais, non.
Ça,
non,
fait,
non.
Ça fait quand même.
Non.
Parce que
on, mais non,
moi,
non,
je lui rappelle quand même.
Non, mais
il y a eu la Coupe d'Europe, il y a eu la sélection exutoire.
C'est ce qu'il fait vibrer au quotidien, le club.
Se faire insulter au stade.
Mais ça ne vaut pas les relations avec les agents, ça ne vaut pas l'adrénaline.
L'importance, le sentiment d'être important dans un milieu, tout ça, on le voit bien dans ses propos.
Dans quel club?
Que c'est quelque chose d'important.
Le milieu de foot, Nicolas, c'est aussi rencontrer les grandes
figures. C'est rencontrer des gens qui ont de l'argent, c'est rencontrer des politiques. C'est rencontrer des gens importants
que jamais tu rencontreras autrement.
Et on voit bien qu'il se nourrit de ça. Après, moi, il y a juste un truc, c'est que j'alerte quand même là-dessus, c'est que les quittes à vendre. Vous pouvez aussi vous retrouver dans une situation multipropriété comme à Strasbourg.
Ah oui, bah ça...
Vous pouvez vous retrouver. Non, mais ce que
la plupart des supporters vont dire chiche. On a vu ça.
Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez aussi vous trouver dans une situation où le club peut dépérir parce que il est acheté par je ne sais qui s'en fout complètement et qui.
Je crois que c'est même plus aujourd'hui.
Avec le foot d'aujourd'hui, on est quand même. On voit bien des exemples partout de clubs qui sont en difficulté. Je dis pas qu'il faut garder l'Equita, c'est pas ça que je dis, mais je dis juste que on sait ce qu'on a. C'est pas ce qu'on va gagner en.
Mais je crois qu'ils savent ce qu'ils ont, les supporters.
Ils sont prêts à prendre le risque. Mais surtout, pour revenir à ce que tu disais, Simon, là, en fait, cette séquence-là, je pense qu'il est plein de sincérité. Et où c'est inquiétant, c'est quand il dit. En plus, il y a des choses fautes, parce que quand il dit je suis mieux ici pendant une trêve, Franquita n'est pas non plus connu pour son assiduité, en tous les cas, à la Genelière. Mais surtout, la phrase qui est aussi surprenante et étonnante, c'est. Quel, en tous les cas, dirigeant de club, cite un maintien pour dire qu'il prend son kiff au stade, en fait. C'est du stress toute l'année.
Ce que je dis, c'est du masochisme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Il n'y a aucun dirigeant de club que j'ai entendu dire « Ah, le maintien l'année dernière !» Mais c'était extraordinaire. Je rêve de refaire une saison qu'on en baffe toute l'année.
Et ça fait trois saisons sur les
parce que si le public a envahi le terrain et offert des belles images à la télé à la fin d'Angers et qu'il pense que le public a pris son kiff toute l'année, bah non, c'est juste une scène de délivrance, de libération.
Mais ça, c'est
que je pense que les gens préféraient ne pas avoir à vivre ça, en tous les cas, ce moment-là, et avoir éventuellement un club au milieu de tableau, mais avec des matchs à émotion, avec du jeu sur le terrain.
Mais c'est son kiff à lui, c'est le joueur de casino, tu sais, qui est rincé et qui joue tout sur un tapis.
Mais c'est pas le kiff du grand public.
C'est exactement la même sensation de jouer sa chemise, d'avoir vécu, d'être en vie quand on ressent ça.
J'ai l'impression qu'ils sont voués à jouer le maintien. Là, il y a eu cette parenthèse enchantée de Coupe de France. Mais franchement, vu les. Il y a beaucoup de clubs, j'en parlais à un agent ce matin. Je sais que par exemple, Laurent Nicolin, avec son club de Montpellier, il a envie d'une chose, je pense, c'est de laisser le club. Et je pense que Valdemarquita, il va pas aimer ce que je veux dire, mais il a pas assez de moyens pour pouvoir être dans les 6-7 premiers. Il y arrivera jamais, il est voué à jouer quasiment le maintien tout le temps.
Ouais, mais c'est pas un problème, tu sais, ça dépend comment tu joues le maintien.
Ça peut être un projet club, mais quand t'es Nantes, tu dois faire autre chose, Jean-Marcel.
C'est pas un projet club quand même.
Quand t'es Nantes, tu dois être autre chose.
Non, j'ai pas dit que je joue le maintien. Non, mais tu me parles de comment jouer les premières places, les 6-7 premières places. Le FC Nantes t'es pas taillé aujourd'hui pour jouer les 6-7 premières places. Mais entre les 6-7 premières places et puis le maintien, t'as quand même un reste de choses et tu peux construire un projet club, je sais pas, sur la formation, amener des joueurs en équipe première, éventuellement assurer un maintien beaucoup plus
tranquille,
mais avoir des ambitions de jeu, avoir des ambitions aussi dans les relations que tu crées avec tes supporters. Enfin, il y a plein de choses.
Mais ça fait 17 ans qu'il
est
là.
Sont à distance.
S'il avait dû mettre ça en place, Jean-Marcel, il l'aurait déjà fait.
Ils sont à distance de Nantes, ils sont à distance de la ville, des supporters.
C'est ce que je te dis. Et il n'y a pas que le maintien. Le FC Nantes n'est pas voué qu'au maintien et à trouver un kiff.
C'est à se demander.
Ah bah non, c'est pas parce que eux, ça, c'est l'usage qu'ils en font. C'est l'usage qu'ils en font, mais il n'y a pas, heureusement, qu'ils peuvent faire d'autres choses que le maintien si demain, tu avais une autre intention, une autre peut-être forme de gestion.
Est-ce que tu peux retrouver les mêmes émotions quand tu n'es plus dans le kiff de la Ligue 1, si tu descends en Ligue 2, et est-ce qu'ils repartiront dans ce projet? Est-ce que Franquita s'imagine faire autre chose dans sa vie aussi? Parce que c'est une des questions qu'on se pose.
Pour qu'ils partent, il faut un acheteur. C'est ça le problème aussi. C'est que tout le monde pense que Ligue 2, qui Valdemarquita va partir. Il faut aller en Ligue 2, comme ça il va partir. Mais on n'en sait rien, ça. Il faut déjà un acheteur.
Il va perdre de l'argent.
Il faut qu'il soit vendeur.
Sûr.
En plus, il va perdre de l'argent s'il est en Ligue 2. Donc on aura l'occasion sans doute de refaire des débats là-dessus.
Hélas.
Dans quelques semaines. Parce que je voulais annoncer Nantes va aller en Ligue 2.
Hélas.
Donc,
t'es pas le seul à penser ça. 80% des
supporters. Vous n'avez pas dit, vous.
Si,
vous
bien sûr. Bah, on peut le dire. Bah, moi, je les vois aller en Ligue 2. D'accord, maintenant, ça y est, ils ont un calendrier qui ne le permet pas.
Non, moi, je les vois barragistes.
Et le pari Comboiré après
Ligue 2 ou pas, parce que
je connais pas le barrage, après, c'est un peu compliqué de
après
prononcer,
comme dirait Didier Deschamps sur les pénalty, c'est à la loterie hein, les barrages,
voilà,
c'est sur deux matchs. Et Hubert Fournier lui dirait le contraire, mais c'est pas le débat du jour. On va en rester là sur
en tous les cas, ils ont tout fait pour pas réduire les possibilités hein.
C'est-à-dire
cette saison la direction a tout fait pour ne pas réduire les possibilités. Je sens qu'on est fatigué en fin d'émission après.
On vous a fait un podcast bien long, il est très tard parce qu'on a enregistré ça mardi soir après la conférence de presse de Franck Kita et d'Antoine Comboiré, vous l'aviez compris, et pour que vous puissiez le déguster tranquillement, on espère qu'on vous a pas trop démoralisé dans les 15 prochains jours. On fera une pause avec la trêve internationale, on va laisser Antoine Comboiré travailler avec ses joueurs et on débriefera le premier match de Comboiré sur le banc nantais. Ce sera Nice et on se retrouve le mardi qui suit. Merci beaucoup messieurs, bonne trêve internationale et puis à très bientôt, nouvelles aventures. Salut.
Sans contrôle, le podcast 100% digital
proposé par les rédactions de Ouest France, Presse Océan et It West.